Gameblogueuse, gameblogueur, bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction de Gameblog, podcast 333. Avec moi aujourd'hui, nous avons Julo.
Salut.
Joe Hume.
Bonjour.
Et Romain.
Salut Plumeau.
On va passer immédiatement au sommaire de cette émission avec une actualité encore une fois chargée. Pour commencer, nous allons parler d'un report extraordinaire. On l'attendait pour la fin de l'année et finalement, Uncharted 4. Among, non c'est pas Among Thief, qu'est-ce que je dis? A Thief's End. Ouais, je suis trop resté dans le dans Uncharted 2, hein, excusez-moi. A Thief's End, finalement il n'arrivera qu'en 2016. Est-ce que notre fin d'année est foutue? Est-ce que la nouvelle génération est foutue? Est-ce que nous sommes tous foutus? On y répond tout à l'heure. Hotline Miami 2 est sorti ce 10 mars. Est-il un des jeux de l'année? On va en parler avec vous tout à l'heure, comme on va parler de Ori avec Julo, qui a été charmé par ce petit jeu indépendant, totalement onirique et magique. On en parle avec lui tout à l'heure. Mais avant ça, comme d'habitude, nous allons commencer, mon petit Julo, par le win de la semaine.
Le win
qui
de
c'est
la
qui
semaine.
L'a winé cette semaine, mon petit Julo?
Alors, cette semaine, il y a deux wins de la semaine regroupés sous la bannière du DLC.
Alors souvent, ça, c'est incroyable.
Le DLC, c'est pas des winners.
Hein. Ah,
souvent,
non.
C'est un peu de l'arnaque en barre et on le dénonce.
Ouais.
Mais là, en l'occurrence, on va parler de This War of Mine, un super jeu indé auquel vous avez peut-être joué et qui va proposer, propose déjà, d'ores et déjà, un DLC qui s'appelle War Child Charity. Le titre veut bien tout dire. C'est en fait une collection de street art qui sont faits par des artistes du monde entier qui sont intégrés dans les décors du jeu. On peut payer un prix libre de 0,99 à 19,99 €. Il y a trois paliers, hein. Il y a un palier au milieu à 9,99 € et tout l'argent récolté par ce DLC sera reversé à l'association War Child.
Ça va même jusqu'à 100 €, hein, pardon, jusqu'à 99 €, non? Je me gourre pas. Il n'y a pas trois paliers? C'est pas 0,99, 9,99
9,99 et 19,99
et 99
c'était peut-être 99 non
ouais.
je crois que c'est 19,99
19,99
on pouvait peut-être être très généreux
ouais, dans oui, tous les cas, vous pouvez voilà, être super généreux
dans
hein,
tous
c'est
les
pas
cas on peut être plus ou moins généreux et choisir voilà sa donation absolument l'intégralité sera reversée donc à War Child une association qui s'occupe des enfants
pris dans les conflits un peu partout dans,
voilà,
le monde.
Dans le monde et qui s'occupe d'eux voilà. Autre win donc à DLC encore une fois et cette fois ça concerne Titanfall qui fête son premier anniversaire voilà, le jeu phare des débuts de la Xbox One et qui donne gratuitement désormais son Season Pass, c'est-à-dire les trois DLC principaux qui offrent de nouvelles maps etc. Donc voilà, ceux qui comme moi ont acheté plein pot le DLC doivent être un petit peu deg mais bon c'est comme ça, c'est la vie. Et en même temps il y a une rumeur comme quoi l'un des jeux gratuits du mois d'avril sur le Gold Games with Gold serait Titanfall, encore une fois pour fêter l'anniversaire, et donc on comprendrait bien que voilà, il faudrait mettre à disposition pour que tout le monde puisse jouer sur les mêmes maps, etc. Ces fameux DLC. Donc voilà, on pensait que ça allait être gratuit seulement une journée le jour de l'anniversaire. En l'occurrence, les développeurs ont annoncé que ça allait être gratuit tout le temps.
Ah, carrément.
Voilà.
Ah ouais, pour et ceux oui. qui les ont achetés, ça fout un peu les boules.
Ça fait un an d'un côté.
Bah, ouais. En même temps, voilà, le jeu est sorti il y a un an, les gens s'amusent beaucoup depuis un an, là ça sert un peu à.
Mais imagine, tu les as achetés la veille.
Oui, c'était
déjà parti. Ah, cool, j'ai acheté les DLC.
Il y a toujours des mecs pas chanceux.
Eh ben, ils sont gratuits.
Il y en a peut-être qui l'ont acheté récemment et qui doivent être bien deg.
Imagine ceux qui l'ont. Ça crée un peu aussi un effet d'annonce avec l'annonce du deuxième épisode.
Exactement.
Ça,
ouais.
Ouais,
voilà.
C'est-à-dire que là, le premier épisode arrive clairement
en fin de vie.
En fin de vie, voilà. Le deuxième est annoncé. Il sortira d'ailleurs également sur PS4. Mais dans tous les cas, voilà, c'est une façon de redonner un peu de vie au jeu, un peu de buzz autour d'une formule qui, quand même, est géniale. Je sais pas si vous avez tous joué à Titanfall, ouais. J'imagine. Voilà, un an après, c'est bien de pouvoir ressortir le jeu et voilà, c'est la bonne occasion. Et puis pour ceux qui l'ont pas découvert, a priori, surveillez bien les Games with Gold du mois prochain.
Très bien. Bon, la vie n'est pas faite que de win. Il y a aussi des fails. Bon petit ouais. Julo. Ouais, quel est encore, le fail de la semaine?
Bah encore une histoire de dépôt de marque. Figure-toi que il y a une licence Microsoft qui est pas la plus connue, hein, qui s'appelle Viva Pignata.
Encore un jeu rare qui est tombé un peu dans l'oubli.
Un jeu rare un peu tombé dans l'oubli.
Je suis un gros fan de Viva Pignata. J'adore.
Oui, mais alors, moi j'aimais beaucoup.
Je trouve ça génial.
Souvent les gens avaient
un dessin animé.
Pignata,
tout, en plus,
c'est
tout. J'ai pas vu le dessin animé, mais j'ai beaucoup aimé les deux premiers.
Ah ouais. Alors on sait qu'il y avait eu un épisode sur DS aussi. Je sais pas si vous.
Qui était très bien pour. Enfin, je connais des gens qui l'ont retourné. C'était vraiment bien foutu.
Donc un bon jeu un peu méconnu. Bon voilà, il y avait des des rumeurs comme quoi il ferait partie de ces fameuses licences que Microsoft voudrait relancer, profiter de son catalogue pour puiser un peu dans toutes les licences qu'ils ont à dispo. En l'occurrence, là, voilà, il y a un dépôt de marque qui n'a pas été renouvelé.
Comme pour l'Asgardian.
Hein. Exactement comme pour l'Asgardian. Donc, de là à dire que Microsoft abandonne purement et simplement une licence, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on puisse aller jusque-là. D'autant qu'apparemment, le dépôt de Mac concernerait plutôt les strategy guides, donc les guides stratégiques. Mmh. Donc voilà, à suivre. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle, mais c'est un fail dans le sens où c'est quand même pas normal qu'une grande boîte comme
T'as une boîte qui a un service juridique qui va venir te faire suer parce que t'as pas mis la majuscule sur la bonne lettre dans le titre d'un jeu.
T'as pas mis le trademark.
Et t'as des services juridiques de plusieurs dizaines d'avocats et personne ne peut contrôler où en sont les différentes marques. Leur date d'expiration, etc. Moi, ça me tue.
Vous pouvez m'expliquer pourquoi on laisse parler un mec qui aime pas Zelda ou...
Oh la vache, Joe qui arrive pour troller.
Faut l'écouter ou pas ou... Je sais pas.
Mais il est fan de Ghostbusters. Hein. C'est la ligue. Tu sais, le président de la ligue officielle française des fans de Ghostbusters, c'est Romain. Donc au moins là, tu
il fait aussi retour vers le futur.
Ça rattrape.
Ça rattrape beaucoup.
J'aime pas Zelda et j'aime le catch. Qu'est-ce qu'il y a?
Bah justement, Romain, tiens, on va passer.
Non.
À toi. Si, on va le faire. Tu sais pourquoi? Parce qu'il va y avoir cette musique. Et qu'avec cette musique, Romain, tu vas me donner le chiffre de la semaine.
Eh bien, mon cher Plumeau, le chiffre de la semaine, c'est 140 000.
140 000 quoi?
Eh bien, 140 000
signatures. C'est bien huilé, notre mécanique. Hein. On devrait en faire une émission.
140 000 signatures à une pétition qui réclame. Et qui réclame quoi?
Ah, mais qui réclame quoi? Vous allez
qui
vous dire.
Qui réclame une version HD, donc un remake de Modern Warfare 2. Call of Duty Modern Warfare 2. Donc c'est étonnant parce qu'on voit souvent des gens qui râlent sur le manque de créativité et d'originalité de certains studios. Ouais, vous faites que des remakes, vous faites que des portages, machin. Mais en l'occurrence, ils réclament un remake de Call of Duty. C'était à 50 000 signatures il y a quelques jours, en début de semaine. Et là maintenant, 140 000. Donc il y a une grosse, grosse demande autour de ça.
Pourquoi Modern Warfare 2?
Parce que c'est peut-être le meilleur.
Et dans les donc c'est un des préférés des joueurs, clairement. Ouais. Et deux, c'est que les joueurs qui sont toujours dessus actuellement se plaignent d'un piratage massif. En fait, il y a trop de hackers sur PS3 et 360 et donc pour pouvoir en profiter à l'ancienne, on va dire, les gens aimeraient bien que ça ressorte sur les nouvelles consoles. Voilà.
Un peu comme Halo 2 était encore joué.
Ce qui m'étonne, c'est que bon, que certaines licences un peu moins connues ou qui n'ont pas forcément eu de chance dans leur lancement original soient réclamées, ça je veux bien, tu vois, qu'un Beyond Good and Evil HD soit réclamé ou qu'un Shenmue HD soit réclamé.
Ou les l'Arlésienne de Resident Evil 2, quoi.
Enfin, qui est réclamé depuis très longtemps, je comprends. Mais alors Modern Warfare 2, enfin, j'aime pas du tout cette expression, mais c'est un peu le jeu commercial par excellence, tu vois.
Bah bien sûr, c'était un blockbuster. Pourquoi pas? Moi je suis pas contre les remakes personnellement, je sais pas pour vous. J'aime l'idée dépend. Qu'on redonne
du moment qu'il n'y a pas que ça. Voilà, c'est...
Ah bah il n'y a pas que ça.
Et il n'y a pas que ça, donc moi j'ai rien contre non plus.
Donc un petit Modern Warfare 2 en beau, ce serait pas mal. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais...
Je m'en contrebalance.
Ouais, alors moi je vais te répondre la même chose. Hein, parce que Modern Warfare, perso, je ne joue pas du tout.
C'est vrai, il avait un super multi et tout, super campagne.
Disons que des gens réclament des remakes HD, ça m'étonne pas, mais je suis surpris qu'il y ait une demande et qu'il y ait une demande si forte autour de ce jeu-là.
Spontané, parce que je sais pas, c'est pas Activision qui a fait un sondage.
Non, il y avait pas eu de sous-entendu ou quoi que ce soit. D'ailleurs, Activision a jamais fait de remake HD, enfin sur cette génération de Call of Duty.
T'inquiète, ça va arriver.
On sait que sur PS3 et 360, il y a vu les premiers Call of Duty qui étaient ressortis sur Xbox Live Arcade ou quelque chose dans ce genre-là. Mais alors là, Modern Warfare 2, ça me.
Je veux bien un remake de Medal of Honor 1, s'il vous plaît.
Ouais, pourquoi pas.
S'il vous plaît, merci.
Pas bête.
Non, mais il y a plein de jeux.
Bonne idée
de
remake.
Il y a plein de jeux dont
Duke Nukem 3D.
Ouais aussi, mais il y en a plein. On pourrait en faire un top. Oh là là.
Une wishlist, je crois que c'est déjà fait.
Ça a déjà été fait.
Mais juste sur des FPS. Mode Call of Duty 1, Call of Duty 2, Call of Duty 3.
Bon, vous savez ce qui a été le plus lu cette semaine sur Gameblog, messieurs?
Ah ben on va le savoir.
J'ai une petite idée.
On va le savoir. Les 5 articles les plus lus de la semaine. Attention, il s'agit de. Numéro 5, le report d'Uncharted 4, le troll de Xbox France. Alors ça nous a bien fait rire, puisqu'effectivement, une fois que Uncharted a été annoncé comme décalé à 2016, eh ben Xbox France ne s'est pas gêné pour faire venir une petite Lara Croft en image sur son compte Twitter avec « Qui va à la chasse ?» Trois petits points. C'était plutôt bien vu.
Et ils ont dégainé très vite.
Ah bah oui, c'était...
Ils ont réagi du tac au tac.
Comme Lara. Numéro 4. GTA 5, braquage, la taille de la mise à jour sur votre disque dur, ça vous a beaucoup intéressé parce qu'effectivement, il y a une différence de ouf entre la version old gen et la version next gen, enfin
ce qui est logique.
Current
en
gen. Et les textures et tous ces trucs-là.
Ah
ouais,
mais c'était 4 gigas pour, sur Xbox One et 1 giga et quelques sur Xbox 360.
Ouais, mais c'est pas étonnant.
Ok, ça vous étonne jamais, de toute façon, ce que je vous dis. Numéro 3, Final Fantasy XV, on y a joué sur PS4. Cela valait-il le coup d'attendre? Julien nous a répondu, vous irez voir vous-même. Numéro 2, GTA Online, les braquages arrivent. Notre récapitulatif complet, encore une fois, GTA Online, les braquages en ligne, ça vous a super intéressé. Le live de Carole aussi vous intéressait, vous pouvez aller le revoir en replay. C'était très intéressant. Et enfin, numéro 1, la grande surprise. Mais le vraiment, hein, quelle surprise. Le top de la semaine, évidemment, qui était sur les meilleurs QTE. Et est-ce qu'il y avait Shenmue à l'intérieur ou pas?
Ça, c'est une bonne question.
C'est à vous d'aller voir. Ça se trouve non, ça se trouve oui. De toute façon, un top avec Shenmue,
c'est rare.
C'est très rare. Hein, ça arrive rarement que ce jeu soit cité. Ça, c'était pour les articles les plus lus. On va passer maintenant aux thèmes principaux de la semaine, en commençant par, et nous en avons déjà parlé, un petit jeu indé dont personne n'entend jamais parler. Je dis ça à chaque fois, hein. Vous allez en avoir marre de cette vanne.
D'ailleurs, on n'entend pas la musique.
Ouais. C'est normal, il n'y a pas de musique en fait, il n'y a que des sons.
Ah. Éboulement.
Il y a des sons, mais il y a une petite musique aussi. Et là, on entend un mec qui fait.
Globalement, c'est quelqu'un qui essaie d'escalader un mur qui se pète la gueule.
Exactement.
Hey.
Bravo. Et à qui ça peut arriver, ce genre de choses? Je vais laisser encore un petit peu tourner parce qu'il va
Indiana
y avoir.
Indiana Jones.
Pas loin.
Au héros de Pitfall.
Pas loin. Mais c'est pas ça. Attendez, parce qu'il
c'est
va, il va y avoir du dialogue.
C'est une franchise connue?
Ça va. Vous allez reconnaître les voix. Peut-être. Avec un peu de chance.
On est d'accord que tout le monde fait semblant de ne pas avoir trouvé.
Bon, ok, on va pas faire semblant. Effectivement, c'est Uncharted 4, Thief's End.
C'est dur à dire.
Thief, ouais. C'est chiant, ouais. D'ailleurs, je vais arrêter. Thief.
T'as que dire Thief, ouais.
Ouais, Thief's End. La fin d'un voleur, donc qui était prévu pour 2015, hein, ça a été martelé. Première vidéo qu'on avait vue à l'E3, c'était un beau 2015 à la fin, on a toujours dit ça. On en rêve depuis longtemps, problème. Eh bien, il n'arrivera pas en 2015, il a été reporté. Pourquoi qu'il a été reporté? Et là, je vais me tourner vers Romain. Romain, pourquoi ce jeu a été reporté? Naughty Dog a expliqué pourquoi. Oui. Mais on est tous déçus, on a tous le cœur qui pleure. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, parce que le jeu est officiellement devenu beaucoup plus ambitieux que ce qu'ils imaginaient à la base. Mmh. Et donc, ils ont besoin plus de temps pour le fignoler et pour lui permettre d'atteindre son plein potentiel.
D'accord, ça c'est la version officielle évidemment.
C'est le discours officiel. Bon, d'un côté, on connaît pas la version
c'est
officieuse.
Ah putain, les mecs, on est à la bourre. Ah merde, fais chier.
Je pense que ça peut être ça en partie. D'ailleurs, c'est vrai que c'était étonnant. On voyait Neil Druckmann sur Twitter il y a quelques jours encore parler de séances de capture de scènes cinématiques du jeu avec les acteurs, etc. Mmh. Et c'est vrai que pour un jeu qui est prévu pour septembre, enfin à partir de septembre à la base, c'est vrai que ça semblait un peu tardif pour continuer de capturer des séquences. Donc bon. Après, je pense qu'ils ont effectivement besoin de plus de temps. Est-ce que le jeu sera plus ambitieux que ce qu'il était prévu à la base? Ça, je ne sais pas, sachant qu'il était déjà très ambitieux d'emblée.
Et très downgradé, hein, aussi, diront certains, d'après les dernières vidéos. Mais après, c'est encore autre chose, n'est-ce pas?
Moi, c'est un petit troll. Personnellement, j'avais trouvé qu'entre le premier teaser vidéo et ce qu'on a vu plus récemment, ça restait très beau, mais je trouvais que c'était un peu downgradé, effectivement. Mais bon, ça arrive sur tous les jeux, donc...
On chipote, hein.
Ouais,
ça reste quand même magnifique.
Bien sûr qu'on chipote.
Et le jeu le plus attendu
de
la PS4.
D'un côté, je vais prendre un exemple dans le ciné. T'imagines si Pixar te faisait une bande-annonce de son nouveau film et quand t'arrives au ciné, le truc il est deux fois moins beau. Quoi. Enfin, bon, j'exagère un peu. J'exagère, mais il y a que dans le jeu vidéo où on nous fait ça. On nous balance des screenshots éditeurs magnifiques. Attends, je me souviens bien de Rambo, le jeu vidéo qui est sorti l'année dernière, qui est une bouse atomique. Tu regardes les premiers screenshots, tu dis putain, c'est quand même plutôt joli avec les effets de lumière dans la forêt, etc. Et quand tu joues au jeu, ben, c'est une catastrophe. Il n'y a que dans le jeu vidéo qu'on nous fait ça.
Moi, ça me rappelle
c'est
un truc que
de la
j'avais
publicité
vu,
mensongère.
Il n'y a pas très longtemps.
Non,
sur
non,
Twitter.
Non, attends, on arrive quand même à une période où on voit dans des bandes annonces de blockbusters des images, des money shots de ouf qui sont finalement pas dans
pas
les
dans
films.
Le film, ouais.
Donc on commence à se faire avoir un petit peu aussi au niveau du ciné.
Vous aviez vu ce petit tweet ou ce montage là avec ce que les jeux, à quoi ressemblent les jeux? Je crois que c'était une image d'Assassin's Creed Rogue. À quoi ressemblent les jeux et à quoi Internet assimile les jeux et comment ils vous les expliquent? Et t'avais donc l'image d'Assassin's Creed Rogue. À quoi il ressemble? Donc sur PS4, PC, Xbox One, et t'avais une image normale à quoi il ressemble. Et quand c'était les versions PS4, PC, Xbox One, t'avais PS4 genre super beau, PC super beau, Xbox One tout pixelisé, genre parce que à cause du truc 900p, etc.
La différence entre la perception et la réalité.
Ouais, exactement. Et ce qu'on explique surtout aussi aux gens en général.
En l'occurrence, je parle des downgrades, etc. Ouais. Mais là, je pense pas que ce soit vraiment le problème avec Uncharted. De toute façon, on a ressorti sur Gameblog, c'est dispo, une vieille interview du début d'année de Evan Wells et Christophe Balestra, les coprésidents de Naughty Dog, et ils expliquent clairement que leur mentalité, ça a toujours été de retarder un jeu pour sortir un bon jeu, parce que selon eux, si tu sors un jeu à temps mais qu'il est pas bon, ça restera. Alors que si tu sors un bon jeu retardé, le retard, plus personne n'en parle.
C'est la fameuse quote de Miyamoto. Ouais. Alors c'est vrai que nous, on est un peu déçus parce qu'on va devoir attendre plus longtemps que prévu pour jouer à Uncharted 4, mais en fait c'est une bonne nouvelle dans l'absolu, c'est-à-dire que c'est quand même le jeu le plus important de Sony, et Sony décide d'accepter de le repousser pour que ses développeurs puissent aller au bout de leurs idées et arriver au bout de là où ils veulent aller.
Alors
quoi.
C'est une bonne nouvelle. Truc, c'est moi j'ai une autre question. La regarder la fin d'année pour Sony en termes d'exclusivité.
Non mais j'ai pas dit
juste avant. Je peux pas
ce n'est pas que une bonne nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle pour les joueurs qui vont attendre plus longtemps, et puis pour la PS4 qui va quand même avoir sa plus grosse cartouche repoussée à l'année suivante. Mais dans le fond, on a envie de quoi ? On a envie de jouer à un super Uncharted qui va être mieux que le 3 et recoller avec le niveau de production du 2.
Ça fait longtemps quand même qu'il y a une grosse exclue qu'on attend vraiment qu'il fasse l'unanimité. Hein.
Mais oui, mais
parce
ça,
que si on oublie The Order et Bloodborne, ce qui sont des jeux qui ne peuvent pas faire à tout le monde.
La PS4 a quelque chose de surréaliste, de presque illogique quoi. C'est presque trop avec si peu de jeux, etc. Je pense pas que ça va entacher complètement la communication et l'image que les gens ont de la PS4.
Non, mais moi je te dis, quand je dis que c'est pas une bonne nouvelle, je me place dans l'esprit du joueur lambda. On va dire, moi j'attends beaucoup un truc, on va me dire bah non, ça, ce que tu attends à donf, ça sortira 6 mois plus tard, c'est pas une bonne nouvelle, peu importe les justifications qu'on me donne. Après oui, quand t'es ultra fanboy ou que t'es un peu mesuré dans tes propos, tu vas retourner ça et dire que c'est une bonne chose. Mais pour le joueur de base qui a envie de jouer à son jeu le plus tôt possible, et bah un retard de 6 mois, c'est pas une bonne nouvelle.
Et c'est clairement pas une bonne nouvelle quand on voit qu'en face Xbox, qui est le concurrent
direct.
C'est une
considération.
Eux, ils ont Rise of the Tomb Raider, Halo.
Alors là, en termes
et
de Forza
6, ça fait quand même trois énormes jeux pour la fin d'année pour Xbox chez PlayStation. Je suis désolé de dire ça pour l'instant. Tant qu'on n'a pas vu le 3, peut-être qu'il y aura des annonces à le 3 ou dans les jours qui viennent.
Last of Us 2, paf.
Ouais, par exemple.
Imagine.
Tout est possible, mais pour la fin
Uncharted, parce qu'ils vont sortir en
difficile.
Même temps Last of Us 2. Là, tout le monde. Oh, mind blow.
Ce serait difficile d'imaginer ça pour la fin d'année, mais pour
oui,
l'instant,
évidemment.
Probabilité 0,01%.
Oui, mais imagine, je le dis maintenant parce que je place ma graine, on sait jamais, tu vois, genre si ça se passe vraiment.
Ouais, on pourra ressortir la vidéo et tout.
Vous l'aviez entendu ici, en premier.
Ouais, mais là, on peut dire clairement, on peut poser la question, est-ce que ça pue pas du cul pour PlayStation pour la fin de l'année ?
Non.
Ça pue pas du cul parce qu'ils ont plusieurs millions d'unités d'avance en termes de
Et je pense qu'on ne sait pas exactement encore tout ce qui va sortir en fin d'année sur PS4 en exclu, et qu'il y aura probablement quelque chose.
Et les 20 millions. Alors oui, ça va peut-être donner un petit coup de frein sur les ventes de consoles potentielles en fin d'année. Les 20 millions, plus de 20 millions de personnes qui ont déjà acheté une PS4, et ils pourront se reporter sur tous les jeux tiers qui sortent aussi.
Exactement. C'est pas comme si on a l'impression que.
Non, mais ne regardez pas, essayez de me convaincre. Moi, je peux peut-être poser les questions. J'y crois pas.
C'est pas parce que t'enlèves Uncharted qu'il y a une espèce de vide intergalactique pour les joueurs qui ont une PS4. Ils vont avoir des tas de jeux à jouer à la fin d'année, comme à toutes les fins d'année. Et chaque année, même, il y en a de plus en plus. Des trucs de mieux en mieux.
Ah, mais la liste de toute façon des jeux PS4 cette année, elle est gigantesque.
Moi,
je parlais en termes d'exclusivité. Et encore une fois, je ne fais que poser la question.
Oui,
je ne me situe à aucun endroit.
On n'en peut plus. non, mais je pense que la PS4, en fait, et je pense qu'elle l'a prouvé jusqu'à maintenant, elle n'a pas besoin d'avoir des grosses exclus pour battre la Xbox One.
Sur cette gêne, en tout cas, oui, c'est clair.
Bah là, la PS4, PS4 versus Xbox One, je suis désolé, depuis le début, on le dit, c'est pas non plus la folie en termes des exclus sur PS4. C'est pas ça qui l'a fait passer devant la Xbox One avec une telle différence. C'est la communication, c'est les erreurs de Microsoft.
Le prix.
Voilà. Et d'ailleurs, ils en payent toujours le prix de tout ça. Voilà. Donc, je pense que ça va pas non plus démotiver les gens. content d'avoir une PS4, d'en acheter une pour
on
la fin
pas,
d'année,
etc.
Ni d'acheter une Uncharted 4 une fois qu'il sera en dispo. Oui.
Voilà. On ne sait pas ce que sera la politique tarifaire de Microsoft et de Sony à la fin de l'année, mais c'est vrai que ça changera pas grand-chose. Ça va faire comme en fin d'année dernière sur les classements NPD. La Xbox est passée devant pendant genre 2 mois de suite à la fin de l'année. Bah là, vu qu'il y a Halo, qu'il y a Tomb Raider, ça fera certainement la même chose. Et après, une fois que ça va se tasser, la PS4 repasse en
10 millions de...
d'écart.
D'écart.
Ouais. C'est ouais. Mais aux États-Unis, ils sont pas très loin 10 derrière.
10 millions
hein.
d'écart.
Quasiment, ouais.
Pourquoi ça voudrait dire qu'ils ont vendu que 10 millions de Xbox One?
C'est quoi? C'est 12? Un truc comme ça?
À peu près 10
millions.
Parce
que là, la
PS4,
elle est à 20,2 millions.
Ouais, ouais. C'était 11-12 à peu près. Hein, ouais, on avait donné les chiffres il n'y a pas très longtemps. Et un peu moins de 10 millions pour la Wii U. À titre personnel, chacun, vous êtes dégoûté ou pas pour le report d'Uncharted 4?
Non, moi, je suis assez content.
Voilà. T'avais pas envie d'y jouer en fin d'année?
Ouais, je suis plutôt du même avis. Je préfère attendre pour avoir un jeu de meilleure qualité plutôt que les mecs se précipitent pour sortir un truc.
Voilà.
C'est sûr que ça aurait été de toute façon, je pense, convaincant. Mais là, en fait, ils ont pas besoin d'être convaincants. Après un Uncharted 3 qui m'avait laissé un petit peu sur ma faim et après un Last of Us de ouf, ils sont obligés de sortir un jeu taré, quoi. Enfin, s'ils veulent véritablement marquer les esprits. Et comme c'était dit juste avant, le retard, on l'oubliera quand on aura le jeu en main, en fait. Donc non, moi ça me dérange pas du tout. Il y a plein d'autres trucs avant. Donc,
De toute façon, toi tu vas jouer à Bloodborne jusque là.
Exactement. Oui, voilà. ça va me tenir jusqu'à la sortie de Uncharted, donc il y a pas de problème.
Moi, si j'étais dans l'optique d'un fan à tout casser de Uncharted, oui, je serais un peu déçu. Mais là, en l'occurrence, je galère suffisamment pour avoir le temps de jouer à tout ce qui. Alors que là, on est dans les mois creux. Je galère pour avoir le temps de trouver le temps pour jouer à tout ce à quoi j'ai envie de jouer. Alors qu'il y ait un jeu qui sera retardé à l'année prochaine, non, ça m'attriste pas plus que ça. Surtout qu'il y a Batman. Il y a Metal Gear, il y a tous ces trucs là qu'il va falloir
mais
faire.
Mais c'est vrai qu'il y a peut-être des Américains qui ont dû péter leur clavier quand ils ont eu la. Ils ont cassé leur truc.
Ouais, bon. C'est possible, hein, effectivement.
Bah, disons que si tu achètes une
j'ai
PS4.
J'ai hâte de voir les vidéos YouTube d'ailleurs.
Si tu achètes une PS4 que pour les jeux Naughty Dog et que tu as déjà acheté ta PS4, oui, tu as de quoi l'avoir un peu mauvaise. Ouais. Mais bon, tu as de quoi faire malgré tout.
Très
bien. Order.
Yes, order.
Ça t'occupera pendant 6 heures.
Vous pouvez le faire 15 fois. Allez-y, quoi.
Exactement. Bon, on va passer au deuxième thème, messieurs. Qui n'est pas exactement dans la même veine qu'un Uncharted. En tout cas, c'est pas aussi propre, c'est pas aussi policé qu'un Uncharted. On est un peu loin de cet univers. Vous l'entendez avec cette musique signée Magna qui s'appelle Divide, qui fait partie de la BO donc de Hotline Miami 2 Wrong Number, qui est sorti ce mardi 10 mars. Alors vous voyez, on est en train. Si vous êtes premium, vous pouvez voir, on est tous en train de hocher la tête comme des malades. Là maintenant, je vais lever ma main comme ça. Je vais pump it up parce que. Eh ben, c'est l'effet que ça fait quand on écoute la BO du jeu en même temps qu'on joue à Hotline Miami 2. Pourquoi ? Hotline Miami 2 reprend exactement
hypnotique là déjà.
C'est un jeu hypnotique exactement, un jeu qui fait un peu comme si vous étiez sous acide. C'est une espèce de simulateur de scène d'action hongkongaise. Imaginez, vous êtes le tueur à gages, vous arrivez dans une pièce et votre but c'est de déglinguer tout le monde le plus vite possible. Vous êtes Chow Yun Fat dans le syndicat du crime, vous êtes Chow Yun Fat dans The Killer, vous pouvez être, je sais pas, Alain Delon dans Le Samouraï.
Sauf que Chow Yun Fat il fait tout du premier coup quoi.
Ben voilà, et ben alors nous.
Ce qui n'est pas ton cas quand tu joues.
Alors,
moi je t'ai regardé jouer.
Alors le problème. Tu parlais de clavier cassé, il y a la manette qui a atterri assez brutalement sur le bureau
plusieurs fois. Effectivement. Alors pour récapituler, vous pouvez le voir à l'écran d'ailleurs, si vous êtes premium.
C'est poétique.
C'est un jeu totalement poétique, effectivement. C'est un top-down shooter, twin-stick shooter au passage, dans lequel vous devez effectivement nettoyer des niveaux complets, les uns après les autres, avec différentes armes qui vont traîner, avec différentes manières aussi, puisque comme dans le premier, il y a des masques à enfiler et des héros différents avec des attributions différentes.
Enfin, dans le premier, c'était un seul héros qui mettait plusieurs masques.
Exactement.
Et là, on a clairement une galerie de personnages.
Pour varier un peu les plaisirs, parce que c'est un des gros points de ce jeu, c'est la variété par rapport au premier. Déjà dans les décors et dans les zics, y en a 10 fois plus qu'avant et elles sont toutes extraordinaires. Eh bien, on va vous obliger à incarner des personnages différents à chaque niveau. Il y aura des persos basiques, comme un flic par exemple, qui lui n'a pas de particularité dans son maniement. Alors que d'autres avec des masques comme le masque de zèbre qui permet d'esquiver, le masque du tigre qui lui ne vous permet pas de prendre d'armes, mais par contre il y va à main nue et il y va pour tuer en un seul coup. C'est risqué
avec ses griffes.
C'est également risqué de tuer en plusieurs coups parce que tu perds du temps à buter les mecs au sol.
Exactement. Alors que lui c'est direct, hein, ouais, c'est ouais. Bam comme ça.
C'est patate de fort.
Il y a aussi ceux qui ont des masques de cygne qui marchent en duo. C'est Alex et Ash. Il y en a un qui a une tronçonneuse et l'autre qui lui sert de soutien balistique. Et ben vous dirigez les deux qui, avec un pathfinding d'ailleurs qui est pas génial, hein, pour le deuxième personnage, et chacun a sa touche d'action et du coup bah vous cartonnez tout. Il y en a un alors là qui est génial, c'est vous avez une mitraillette dans chaque main. Première touche, c'est pour tirer normalement. L'autre touche, c'est pour écarter les bras. Donc vous pouvez balayer et faire un tour sur vous-même pour en foutre plein la gueule à tout le monde. Partie de ces personnages-là, vous arrivez dans des endroits avec une caméra qui est assez proche de vous, et donc il faut quand même ausculter un petit peu ce qui se passe aux alentours.
Mais un peu moins que dans Hotline Miami, quand même.
C'est un peu
ça
moins.
Ça prend un peu de recul.
Ça prend un peu de recul, ouais.
Il faut quand même balayer à mort.
Et voilà, il faut balayer avec une des touches. Il y a aussi une possibilité de loquer les ennemis, ouais. Maintenant qui peut être très utile par
faut
moment.
Pas trop le faire, pas trop le faire.
Parce que des fois, il y en aura un qui sera isolé plus loin, et bon, bah, on va essayer quand même de le buter avec sécurité, on va dire. Mais il y a aussi plus d'ennemis vicieux, c'est-à-dire des ennemis qui ne réagissent que aux balles, d'autres qui ne réagissent que aux armes de mêlée. Alors des fois bah, vous vous retrouvez comme un con avec un mec qui résiste aux balles, et vous bah, vous aviez un Uzi dans la main, bah, c'est foutu, vous recommencez. Il y a une espèce de rythme complètement frénétique où bah, vous tuez les uns après les autres, vous avez votre combo qui apparaît, vous dites putain c'est la classe et tout, là il y a un toutou qui apparaît qui vous bute. Vous recommencez.
Ah oui,
le
retour
début.
Des chiens, ils font. Bah,
et non, c'est comme ça pendant ça. Tout le jeu. C'est du die and retry pur, c'est moche, c'est méchant, c'est sale et c'est ultra jouissif. C'est un jeu qui vraiment va beaucoup plus loin que le premier aussi en termes de narration, avec une narration qui est éclatée. Vous ne comprendrez rien. Moi, je vous le dis tout de suite. Moi, j'ai rien capté à la première partie. C'est après où je me suis dit, ah, c'est pas mal foutu. Parce que c'est un peu Pulp Fiction. On traverse différentes époques. Il y a des moments où on ne sait pas si on est dans la réalité, si on est dans un film, si on est dans un rêve. C'est un peu zarbi.
Et
c'est
une meilleure lecture du coup du scénario la deuxième fois, quoi.
Bah, disons que quand tu commences à reprendre les pièces du puzzle les unes après les autres.
C'est comme mater un film de David Lynch un peu. Voilà. En fait. C'est-à-dire que c'est quand tu revois, tu découvres des mots. C'est un peu comme si Carpenter et David Lynch c'était associé pour faire un film, un jeu vidéo inspiré de la scène de l'ascenseur de Drive. En fait, ils ont vu cette scène, ils ont fait, ok, on va faire un film autour de ça. On va faire un scénario super cryptique. Mais c'est ce qui fait la force du truc, je trouve. Le fait de te retrouver paumé là-dedans, ça t'isole tellement au milieu de cette violence partout que ça a un côté effectivement hyper galvanisant. Quoi.
Ouais. Est-ce que c'est juste une suite ou est-ce qu'il y a vraiment ça apporte quelque chose. Alors, en plus à part les personnages.
Bah, il y a un côté un peu méta par rapport au premier, j'ai l'impression.
Ouais, absolument. De ce côté-là, oui. Mais c'est surtout que c'est mieux, voilà. C'est plus gros, c'est plus dur, c'est plus varié. Je le disais pour les.
Oh, je vous ai vu.
C'est plus long, oui, voilà. C'est vraiment la version plus aboutie, plus maîtrisée du premier, qui était un très très bon jeu, qui avait plein de problèmes, par contre, hein, de bugs, des niveaux un peu courts. Maintenant, vous trouvez des gens qui le finissent ultra facilement. Mais pour celui-ci, par contre, c'est vraiment 10 heures à en baver. Du début à la fin. Alors après tu peux débloquer un mode hardcore, un mode hard, avec les écrans qui seront inversés et beaucoup plus d'ennemis balèzes qui se baladent, hein. Dès le premier on te fout des molosses qui résistent comme c'est pas permis, et puis il va y avoir un éditeur de niveau qui va arriver dans pas très longtemps, qui avait été montré à la Gamescom.
Ouais, il est en bêta là,
là il est en alpha, nous on n'a pas pu l'essayer malheureusement avec cette version. Mais en tout cas, il avait l'air très facile d'accès et quand il va arriver.
Il est promis bête comme chou.
Bah, il est mon.
Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas dit ça.
Ça s'était vérifié, hein, pendant les salons, qu'il était vraiment très simple d'accès. Et on imagine déjà que là, il y a une rejouabilité de ouf parce qu'il y a les leaderboards aussi. Hein. Genre, aller
ouais,
plus vite possible.
Oui, parce que t'as pas parlé mais de ça, mais il y a des combos.
Ah, si, bien sûr, il y a des combos.
Il ouais.
Y a un côté scoring dans le truc.
Ouais, il y a. Ah ouais,
c'est un des gros intérêts du jeu et de sa rejouabilité. Hein. C'est vraiment essayer de se dépasser, quoi. Essayer vraiment d'être Shoyun Fat, comme le disait Romain tout à l'heure. Et donc, on imagine facilement qu'avec un éditeur de
niveau, bah, ça va être quasiment Hotline Miami 3 quoi. C'est des mecs qui vont te créer des trucs, ouais. Des trucs de
moi,
fou.
Enfin, j'adore les éditeurs de niveau, pas parce que j'aime en créer, mais
c'est parce que t'aimes bien voilà, profiter
aller,
de ce
aller,
que...
voilà, aller pomper tous les trucs qui sont faits par des gens hyper talentueux. Dans Little Big Planet, par exemple, c'est le cas. Tu ouais. vois, tu sorti du petit mode solo, tout de suite tu vas classer les niveaux par ordre de notes quoi. Tu prends les meilleurs et puis il y a des trucs qui sont carrément mieux faits que ce qui a pu être proposé par les développeurs des fois. C'est impressionnant. Donc ça, c'est toujours cool. Même si on n'utilise pas le côté créatif soi-même, d'avoir un éditeur, ça permet de prolonger la durée de vie des jeux. Quoi.
Enfin, cas, je crois que c'est Hotline Miami 2, c'est la première fois que je t'ai presque vu en colère.
Oh, tu m'as déjà vu en colère.
Oh non, vraie colère, là c'est je t'entendais râler, tu jetais la manette sur,
ouais, encore,
sur le bureau.
Ouais, enfin, je l'achetais, non, j'étais gentil. Hein. Franchement, si j'avais été tout seul chez moi, crois-moi, la manette elle volait, elle éclatait et on n'en parlait plus. Hein. Parce qu'il y a vraiment des niveaux où c'est un truc de chien, quoi.
Et puis, contrairement, j'ai l'impression. De mon souvenir par rapport au premier épisode, il n'y a pas de crescendo, c'est-à-dire dès le deuxième tableau, c'est en chie quoi. Enfin,
ah bah oui,
c'est très
sûr.
Très rapide.
Ouais,
ça
va
pas
très
le temps de.
Bon, après, je vais pas dire non plus, les trois premiers tableaux sont quand même assez simples, mais c'est vrai qu'après, ça prend des proportions assez gigantesques et que t'as vraiment pas le droit à une putain d'erreur quoi.
Ce que je trouve assez fascinant aussi, c'est que derrière ces graphismes 8 bits quoi, c'est vraiment vu du dessus, moche, etc. Mais avec la musique et la violence du gameplay, etc. Hotline Miami,
ça fait un peu Serge Gainsbourg de limbo.
Non, mais c'est pas ça.
Mais moi, je trouve pas ça moche.
Il a une espèce de pouvoir. Ouais, c'est pas moche en termes esthétiques. C'est daté,
c'est,
on va dire.
Hyper, oui,
techniquement,
c'est hyper daté,
voilà.
Mais
c'est dérangeant, c'est dérangeant, c'est déstabilisant. Je veux dire, les tronches, elles sont mal faites.
Mais ce qui est assez fascinant, c'est qu'il a quand même un pouvoir d'immersion, ce jeu, qui est dingue. Un peu comme justement les jeux de l'époque 8 bits, où on devait imaginer tout. Mais là, t'as l'impression d'y être en fait, malgré la vue du dessus et les graphismes dépassés.
Bah, les graphismes dépassés, mais t'arrives quand même à voir quand un mec se fait viscérer, quand il perd les membres, quand il perd son crâne.
T'as presque l'impression d'y être en vue subjective, c'est ça que je veux dire, c'est que tu ressens vraiment le personnage que t'incarnes et tout, quoi, malgré tout.
Ouais. Et c'est clair que, enfin, tu le disais, mais je pense que c'est important d'appuyer dessus aussi. La musique, au-delà d'être une super BO d'électro avec beaucoup de français d'ailleurs là-dedans, faut le dire. Ça apporte véritablement un côté hyper hypnotique au truc. C'est-à-dire que tu peux te prendre à passer des heures à jouer
sur
et à recommencer
niveau, parfois,
tout le temps, mais ouais, tout le temps le même truc
et sans te plaindre que la musique te saoule en fait.
Exactement. Et alors que les personnes qui sont à côté de toi, enfin moi typiquement je joue à côté de ma meuf qui parfois elle lève les yeux vers moi, elle me dit mais qu'est-ce que tu fous, j'en peux plus de cette musique. Et là genre mais non, c'est trop bien, tu comprends pas. Et c'est vraiment une des grandes forces du jeu. C'est cette le die and retry, en fait on n'y pense même plus, on s'en fout, t'as juste envie de flinguer et effectivement il y a un truc de dépassement de soi qui fonctionne vraiment vraiment très très bien quoi.
Ouais, exactement.
C'est pour ça que quand tu l'as terminé, tu t'es levé, t'avais les bras tendus,
effectivement j'ai mis les deux doigts vers le ciel comme ça et j'étais super heureux. On aurait dit David Louis à ce moment-là, mais surtout oui, la BO en fait c'est vraiment un truc très années 80 quoi. C'est vraiment, t'as l'impression de regarder Sixième Sens de Michael Mann,
à la mode en ce moment, qui a été relancé un peu
des
par
moments,
Kavinsky
je me disais,
avec Drive et tout,
mais c'est pas dans l'album de Kavinsky, enfin tu vois, il y a vraiment des trucs
tellement mieux que Kavinsky.
Ah, mais j'aime bien Kavinsky.
Mais moi aussi j'aime bien Kavinsky.
J'aime bien
là en fait, le truc c'est que pour rentrer un peu dans des considérations, Kavinsky je trouve que c'est toujours très très illustratif et un peu forcé, alors que là, au-delà d'être de la musique assez typée années 80 et tout, ça sert le propos du jeu. C'est-à-dire que quand tu regardes un film où ils ont mis une musique de Kavinsky, tu dis ok, ils ont mis la musique de Kavinsky là pour créer une certaine atmosphère, mais tu vois le truc. Alors que là, c'est vraiment organique, tout est lié et ça fonctionne tellement bien que en fait tu t'en fous que ce soit de la musique qui te plaise ou pas, ça fait partie intégrante du jeu et du gameplay quoi.
Ils doivent avoir un niveau d'exigence assez ouf en ce qui concerne la musique. C'est limite à se demander si la création de la musique a pas demandé plus de temps que le jeu en lui-même.
C'est tous les artistes.
Elles n'ont pas toutes été composées pour le jeu. C'est des musiques préexistantes. Mais je pense en revanche que les mecs qui font ce jeu, qui ont fait ce jeu, ont travaillé avec la musique tête déjà. C'est-à-dire que les mecs travaille forcément avec le son tout le temps avec eux.
Ah oui, Denatop Games a dû jouer avec ça pour se dire ah tiens, dans tel niveau on va plutôt mettre celle-ci parce qu'elle est bien énervée. La boîte de nuit, je sais pas si tu l'as vu encore.
Pas encore.
Oh bah la boîte de nuit,
j'ai pas terminé le jeu.
Extraordinaire, enfin bon. Tout ça
petite
pour dire.
Une anecdote amusante. Oui. Savez-vous que les développeurs de Hotline Miami sont végétariens
Ils sont suédois et végétariens.
C'est totalement improbable.
Bah ouais, pour des mecs qui mettent autant de sang à l'écran, c'est vrai que c'est un peu improbable.
Voilà. Ouais, ils expriment leur frustration de ne pas manger de viande.
Je pense que c'est un exutoire.
Non, mais alors ils sont devenus végétariens suite à toutes ces scènes de boucherie qu'ils ont créées.
Ouais, c'est possible aussi. Enfin, tout ça pour dire que Hotline Miami 2, c'est un indispensable de ce début d'année.
Des masques d'animaux et tout, ça se trouve, c'est une métaphore du.
Ah non, mais clairement, enfin, c'est parce que en plus ils vivent leur végétarianisme. Ouais. Je sais pas, de manière très. De manière très ostentatoire.
Bon, en tout cas,
et juste une précision, souvent les joueurs d'Hotline Miami disent la meilleure plateforme pour y jouer, c'est la PS Vita. Vous confirmez?
Moi, je m'éclate sur PS Vita, perso.
Alors voilà, Ludo peut te dire que la Vita c'est bien. Moi, sur PC, je suis très content aussi. Hein.
Mais j'imagine, mais moi, je joue avec une manette sur PC.
Moi, j'ai envie de jouer tout le temps en fait. Donc, du coup, quand je suis dans le bus, quand je suis dans le métro, je sors ma Vita et je fais des mini-parties.
Et d'ailleurs, faut rappeler, c'est crossplay, PS4, PS3, PS Vita. Si vous avez le jeu, c'est sur les trois que vous l'avez et c'est comme ça.
Crossplay, crossplay, c'est quand tu peux jouer. D'une plateforme à l'autre.
Je confonds tout en ce moment, tu
sais.
Excuse-moi, Julien Chies. Bref. On va passer maintenant au troisième thème.
Changement d'ambiance.
C'est totalement changement d'ambiance, encore une fois. On va revenir sur quelque chose de beaucoup plus onirique.
Et développé par des gens qui mangent de la viande, par contre.
Voilà.
Qui
mangent de... Et ça, c'est improbable.
Et qui vont à la chasse. Et là, ça, c'est encore plus improbable. Petite musique.
Je pense qu'il faut que tu. Que je voulais, si tu veux que les gens entendent.
Mais ils entendent là, t'inquiète pas.
Non, c'est...
Bien sûr, tu l'entends
c'est...
pas.
Ça y est, ils entendent.
Petit piano.
Et puis là, pour le coup, on parlait de la musique de Hotline Miami comme l'un des points forts du jeu. Dans Ori, parce que c'est de Ori qu'on va parler.
Ori and the Blind Forest.
Ori and the Blind Forest.
Qui est sorti
sur,
donc
Xbox One PC.
Mercredi 11 mars sur Xbox One et PC.
Et qui arrive également sur 360 plus tard dans l'année, mais on n'a pas de date. Voilà pour ceux qui ont encore une 360.
Vu comment ça galère déjà parfois sur One.
Il y a quelques rares ralentissements.
Non, mais c'est tout ça pour dire que sur 360, ça va forcément être.
Ça sera
être
peut-être
un peu,
downgradé aussi, tu vois, pour que ça tourne. Mais
Ah, parce qu'on l'a tous vu ici, c'est somptueux.
Alors, c'est l'un des plus beaux jeux, et là, je parle pas évidemment des effets de lumière qui sont très jolis pour autant, mais vraiment de la patte artistique, esthétique qui a été mise en place par Moon Studios. Alors, il faut savoir que Moon Studios, c'est un studio collaboratif. Ils n'ont pas de studio à proprement parler, de lieu géographique où ils se retrouvent. Ils travaillent tous à distance, aux quatre coins du monde, par Skype,
c'est
Dropbox.
C'est dingue de faire un truc aussi cohérent tout en étant.
Et parfaitement cohérent, c'est le mot, effectivement. On va y venir, mais en gros, ils ont travaillé comme ça, et ça explique peut-être le temps de développement, quand même, de quasiment 5 ans pour pondre ce jeu. Mais ce qu'il explique surtout, c'est que c'est un jeu incroyablement maîtrisé du début à la fin, et c'est un peu la question qu'on se posait, parce que souvent avec les jeux indés on se dit derrière cette façade magnifique, est-ce qu'il y a un vrai jeu, est-ce qu'il y a quelque chose de concret, de vraiment cool, ou
est-ce que derrière
hypé,
cette façade magnifique est-ce qu'il y a un vrai jeu, est-ce que...
Écoute, j'étais surpris de la qualité incroyable du jeu qu'il y a derrière, du gameplay qui s'inspire aussi beaucoup de jeux existants, mais qui ajoute toujours, et ça c'est un peu pareil aussi pour la patte artistique, d'ailleurs on est en train de voir un niveau assez génial dans lequel on joue avec la gravité.
Parce que c'est un, faut rappeler quand même, c'est un Metroidvania en quelque sorte, en 2D.
C'est un Metroid, c'est un pur Metroidvania.
C'est la question que j'allais te poser, c'est un de tes genres de prédilection à la base ou pas?
Pas du tout.
Parce que clairement si vous êtes fan du genre, vous pouvez y aller les yeux fermés, quoi.
Ouais. Alors en fait, il suffit d'aimer les jeux d'action plateforme, on va dire de l'époque 16 bits, quoi. Voilà, c'est ces jeux qui nous ont fait tant rêver et dont les plus grands représentants résonnent encore dans nos petits cœurs, quoi. Là vraiment, ça fait vibrer cette corde là, quoi. C'est un jeu qui est non seulement magnifique, mais qui est hyper bien conçu. Donc en gros, Metroidvania, ça veut dire que vous avez une map gigantesque comme un monde ouvert, un vrai dédale, un vrai labyrinthe qui va se dévoiler petit à petit. Au fil de votre progression et au fil de l'acquisition de pouvoir. En gros, au départ, vous partez à poil et vous finissez avec le double saut, la possibilité de s'agripper au mur, etc. Et à chaque fois qu'on développe un de ces pouvoirs, on va pouvoir revenir sur ses pas et accéder à de nouvelles zones. Donc le principe, il est hyper efficace et il est maîtrisé, mais honnêtement comme dans les meilleurs jeux japonais. C'est-à-dire que la jouabilité est incroyablement précise, le level design est super bien pensé, et surtout ce qui m'a fasciné, moi, c'est le rythme qu'ils ont imprimé dans ce jeu. Les nouveaux pouvoirs arrivent toujours au bon moment, ils relancent toujours mais énormément l'intérêt du jeu, et on a de cesse pendant toute l'aventure d'être subjugué à la fois par les graphismes, parce que les environnements sont tous hyper variés et on découvre à chaque fois des zones incroyables et tout.
Moi je vois les arrière-plans, ils ont l'air quand même sacrément fournis, alors, c'est détaillé à fond.
Oui, alors ce qui est incroyable, c'est que les artistes apparemment ils ont fait aucune réutilisation, c'est-à-dire que chaque décor est unique. Il n'y a pas la réutilisation par exemple de la plateforme qu'on est en train de voir à un autre endroit du jeu, etc. Tout est dessiné à la main et tout est.
Très beaux effets de lumière aussi.
Oui, les effets de lumière sont très jolis. Et c'est pas tout, ouais. Donc le gameplay est fantastique.
Ouais,
ils ont créé aussi.
C'est pas une coquille vide, faut bien le.
Ouais, c'est pas du tout une coquille vide, bien au contraire, c'est franchement à la hauteur des meilleurs jeux japonais qu'on ait pu connaître jusque-là. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a d'autres similitudes avec Hotline Miami dont on parlait il y a deux secondes, c'est l'aspect die and retry. En gros, un des trucs intéressants du jeu, c'est que vous allez collectionner des petites orbes bleues et c'est grâce à elles que vous allez pouvoir créer des points de sauvegarde exactement où vous voulez, mais pas donc quand vous voulez, parce qu'il faut avoir ces orbes bleues. Ces orbes bleues, on peut les utiliser aussi pour attaquer à certains moments, etc. Donc il y a une vraie gestion des points de sauvegarde, sachant que la difficulté grimpe en flèche à certains moments, et que si on n'a pas pensé à mettre un point de sauvegarde au bon endroit, etc., ça peut être extrêmement frustrant. Donc c'est quelque chose qu'on apprend de ces échecs au début du jeu, et on finit par en mettre partout aux endroits qu'on sent bien, parce qu'on sent qu'il y a un truc difficile qui arrive juste derrière. Et à côté de ça, le jeu arrive en plus à te surprendre, parce qu'il y a des, un peu comme dans un Zelda, il y a des vrais donjons. Et ces donjons-là, fermés avec des énigmes, etc. Quand tu vas les terminer, ça va changer la topographie du reste du monde. Et encore une fois, comme avec l'acquisition d'un nouveau pouvoir, en finissant ces donjons-là, tu vas retourner à certains endroits, accéder à de nouvelles zones, etc. Et à la fin de ces donjons, tu as des séquences de fuite qui sont extraordinaire. On en a vu une il y a pas longtemps à l'image. En gros, la première, t'es dans un arbre, à l'intérieur d'un arbre gigantesque, et à la fin tu réactives de l'eau à l'intérieur, et donc l'eau va monter jusqu'en haut et toi tu dois fuir.
J'ai horreur de ces séquences là en général.
Et voilà, et
c'est le stress absolu.
Elles sont géniales et elles durent assez longtemps, et donc elles sont très très dures, parce que quand tu meurs tu recommences à ton dernier point de sauvegarde, et forcément quand t'es une scène d'action tu peux plus mettre de point de sauvegarde, donc t'es obligé de la refaire en entier à chaque fois. C'est la scène qu'on voit.
J'ai le souvenir de trucs comme ça
si
dans Rayman.
Vous pouvez voir la scène en question.
Alors, source d'inspiration numéro 1 des développeurs, Rayman.
Ah bah, j'allais dire des scènes
gameplay
comme ça qui, voilà, qui
donc là, vous voyez le personnage, on le voit à l'image, si vous êtes premium, il est poursuivi par l'eau qui monte inlassablement. Ouais. Et il faut aller très très vite pour non seulement pas se faire rattraper par la flotte, mais en même temps s'en tirer avec tous les ennemis qui vous tirent des projectiles, etc.
Et avec une toute petite mécanique de Castlevania Order of Ecclesia d'ailleurs, au passage.
Oui, alors en gros.
Oui, t'as vu l'orientation avec
exactement
les flèches.
C'est un des trucs géniaux du jeu, ça s'appelle la frappe, c'est un des premiers pouvoirs qu'on gagne. Et donc, sur un ennemi ou sur le projectile d'un ennemi, on peut l'utiliser pour se projeter à son tour. Et le truc, c'est que si tu te projettes à droite, le projectile va aller à gauche, et donc tu peux renvoyer un projectile à un ennemi aussi avec ça. Donc, c'est
d'accord,
hyper
tu peux te déplacer et
attaquer. Ouais.
Et j'avais une petite question par rapport à ces donjons ponctuels dans le jeu.
Ouais.
C'est des donjons auxquels tu as tu peux re-avoir accès après pour te les refaire.
Tu peux y revenir, mais ouais, tu les refais pas dans les conditions du donjon. Ils ont déjà d'accord été ouverts, etc. Tu peux y revenir avec de nouveaux pouvoirs, encore une fois, pour aller chercher des bonus que tu n'aurais okay pas trouvé, etc. Et ce qui est à noter d'ailleurs, c'est que il y a deux façons de classer les gens, parce qu'il y a un vrai classement avec les meilleurs joueurs du monde. C'est le nombre de morts, parce que je vous le dis, c'est un vrai die and retry, et j'ai vu que des mecs avaient réussi à finir le jeu sans mourir. Je pense que c'est des développeurs avec un god mode ou je sais pas, mais ça me paraît complètement dingue. Moi je suis mort 695 fois, je crois.
Wow.
Donc il y a ce compte là et le pourcentage de complétion, c'est à dire tous les secrets que tu as trouvé. Donc moi j'ai fini à 92%, je crois. Donc il y a quelques secrets à droite à gauche, et quand tu finis, il n'y a pas de new game plus, tu vois. Tu peux pas revenir avec tous tes pouvoirs, c'est la partie est close.
Okay,
et il faut que tu recommences une partie depuis le début. Donc voilà, c'est
donc y a pour un petit avoir 100% faut le faire en une fois,
faut le faire en une fois.
Ouais.
Et avoir 100% du jeu encore, j'imagine c'est faisable. Quand tu le connais la deuxième fois, tu peux aller trouver tous les secrets, etc., bien que tu as des succès apparemment bien planqués, par exemple un passage secret à trouver dans le jeu que j'ai jamais
parce
trouvé.
Que donc ce qui veut dire qu'il y a des trucs, des bonus, si tu les as pas trouvés au début du jeu, à la fin du jeu tu peux pas y revenir pour
si tu peux, c'est un vrai Metroidvania.
Okay,
donc tu peux revenir partout.
Okay,
mais par contre il faut le faire avant. Donc ça c'est faisable, par contre mourir zéro fois. Je comprends pas comment c'est possible. Il y a d'ailleurs un succès pour ceux qui aiment platinomer leur jeu au
platiner leur jeu
avec voilà tous les succès.
Platiner sur Xbox ça va être compliqué quand même.
Ouais, c'est non mais d'accord. Mais on s'est compris. Hein. Il y a un nom sur Xbox pour platiner.
Non mais le terme platiner c'est adapté à tout le monde hein, tu sais.
Avoir les 1000 G voilà, pour avoir
les trophées,
c'est le même principe quoi. En gros, c'est avoir le dernier le trophée, le master trophée. Quoi, le master succès, voilà. Donc c'est très compliqué.
Il y a une question sur laquelle on n'est peut-être pas on a peut-être pas abordé tout à l'heure, c'est au sujet de l'émotion. Ce qui paraît oui. que les premières minutes,
alors honnêtement, tu commences avec une boîte de Kleenex au départ,
faut pas trop le dire.
Il y avait eu un long trailer qui montrait le début du jeu, en fait,
c'est effectivement le début du jeu.
Si jamais vous ne l'avez pas vu, préservez-vous et vivez-le en jouant parce que ça va conditionner vos premières minutes de jeu, clairement.
Tout à fait, c'est une.
Est-ce que c'est aussi triste que là-haut? Parce que moi là-haut par exemple, ça m'a je me rappelle que toute la salle dans le ciné s'était tue. Ouais. Tu vois, à la fin oui, des premiers quarts d'heure, ça faisait
ça. Alors je sais pas si c'est de ce niveau émotionnel là, je pense que ça dépendra de chacun. Voilà, puis le simple fait de prévenir les gens en leur disant attention, vous allez chialer, etc. Souvent t'as une attente.
Mais non, vous allez loler, vous allez voir, vous allez kiffer.
Non, en tout cas, c'est c'est magnifique visuellement. Les personnages sont hyper attachants, ils sont animés d'une façon géniale, le gros balourd là du début est vraiment magnifique avec son bide un peu à la Totoro qui rebondit comme ça.
Tu fais penser au personnage de Disney aussi, la Big Hero,
Big Hero 6,
c'est vrai, et ça fait beaucoup penser
Baymax.
Ça fait beaucoup penser à Princesse Mononoke et autres films du studio Ghibli aussi. C'est clairement des influences, mais ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment moi j'ai été subjugué par et vraiment surpris de trouver autant de qualité derrière ce qu'on attendait, c'est-à-dire un jeu très joli, etc. Et j'avais peur que ça soit tellement référentiel, et c'est extrêmement référentiel, hein. Mais ils ont réussi à sortir de ce carcan référentiel et à créer leur propre univers, leurs propres originalités en termes de gameplay, et créer un jeu. Mais honnêtement, j'ai vraiment hésité à lui mettre 5. Hein. Je suis resté sur 4,5.
Peut-être qu'il sera culte un jour, hein
pourquoi,
et tu t'en voudras ce jour-là.
Pourquoi c'est pas parfait.
Ce jour-là, on te regardera comme pour le de Space Channel.
J'ai trouvé que la conclusion n'était pas forcément à la hauteur du.
Mais et ça, c'est très personnel. Une fin bâclée.
Non, elle est pas bâclée.
Une de plus.
Mais on va dire, elle est un peu gentillette, quoi. Ouais. Elle est pas dans le même ton triste du début. Mais elle est très bien quand même. Et là, en vérité, je pinaille. Mais on pinaille toujours quand il s'agit de mettre un 5 sur 5 sur Gameblog. Ça veut dire culte. Ça veut dire dans 10 ans, on en reparle tous en se disant que ce jeu a marqué une étape, etc.
Ah, mais après, c'est un pari, hein, quand on fait 5. Quand on met 5 sur 5,
j'ai véritablement hésité. Voilà, c'est 4,5 indispensable, et c'est véritablement indispensable. Si vous avez une Xbox One ou un PC, vous devez absolument y jouer, parce que c'est la grosse surprise de ce début d'année. Ils ont imprimé un rythme dans ce jeu qui est complètement dingue.
Il y a un sujet qu'on a évoqué que de loin, c'est parce que Plumeau parlait de l'émotion, mais en ce qui concerne l'histoire.
Ouais.
On n'a pas du tout parlé de l'histoire. Est-ce qu'elle est agréable à suivre? Est-ce qu'elle est sophistiquée ou est-ce que c'est une suite de séquences où t'as pas vraiment de scènes cinématiques, pas vraiment de texte?
Si t'as des scènes cinématiques à chaque fin de donjon, si je dis pas de bêtises, donc tu dois en avoir 5-6 dans le jeu, en plus d'une intro et d'une conclusion, qui sont touchantes. Après, dans le cœur du jeu. Ce qui est important dans un jeu comme ça, qui est un peu un traditionnel, à l'ancienne un peu, c'est que quand tu progresses, il faut que tu saches pourquoi tu progresses. Okay, tu vas chercher des nouvelles choses. Y a un arbre qui meurt au départ du jeu. En gros, le but du jeu, ça va être de lui redonner de la vie, parce que c'est lui qui donne de la vie à tout le reste de la forêt. Donc il y a quelque chose, c'est un peu onirique.
C'est l'arbre mana, en fait.
Hein,
c'est l'arbre mana un peu.
Exactement, bah, encore une référence bien sûr, ou l'arbre mojo. Tout à fait. Il y a des références à Zelda, il y a des références à Castlevania, il y a des références à absolument tous les jeux qui nous ont marqués ces dernières années. Mais comme je vous le dis, c'est plus que ça en fait, Ori. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que c'est une énorme surprise en termes de qualité de gameplay. De qualité, de rythme.
Est-ce que tu penses que ça peut être le premier épisode d'une éventuelle nouvelle franchise ou
Moi j'ai envie de leur dire, les gars, trouvez-vous un studio, mettez-vous tous ensemble et faites vite, pas forcément une suite, mais un nouveau jeu, quoi. Parce que ces mecs-là, ils ont un talent complètement dingue, à la hauteur du talent des meilleurs développeurs japonais de la bonne époque.
Mais est-ce qu'à la fin du jeu, comme un Rayman, le personnage, t'as envie de le revoir justement dans un nouvel épisode, ou est-ce que c'est un personnage aussi attachant qu'un Rayman
Oui, il est attachant, et son père adoptif aussi. et ouais. Cet univers est attachant. Après, moi, je tiens pas forcément à ce que ce soit dans le même univers. Moi, j'ai été subjugué par la qualité du jeu d'une manière générale, et j'ai envie de découvrir un nouvel univers créé par ces gens-là.
C'est un truc, que c'est pour ça que je te posais des questions au sujet de l'histoire, c'est que quand on écoute tes remarques, on te sent vachement plus enthousiasmé par le jeu en lui-même et ses mécaniques de gameplay que par l'univers.
Moi, je pense que c'est un ensemble. Hein,
mais
là, pour le coup,
tu sais pourquoi ? En fait, ça trahit exactement en fait cette surprise que j'ai eue, parce que on l'attendait sur l'onirisme, sur la beauté de l'univers, sur les graphismes, etc. Mais on l'attendait tellement que j'ai été hyper surpris par le reste. Mais quelque part, ça n'enlève pas du tout au jeu ses qualités incroyables en termes de graphisme et d'univers et d'esthétisme. C'est d'une beauté renversante pendant tout le jeu. Ça dure environ 10 heures hein, pour un jeu à 20 balles quand même. C'est voilà, pour ceux qui tiennent beaucoup à ce comparo durée de vie prix, là vous l'avez, mais alors pleinement, surtout que t'as qu'une envie, c'est de recommencer à la fin. En termes graphiques, d'univers, etc., c'est vraiment ludique, bluffant.
Très bien. Bon bah en tout cas on est gâtés hein.
Cette semaine,
mois de mars avec
Attends, mais même la semaine dernière avec Helldivers qui est un supra jeu, ouais. Pareil, là cette fois c'est une exclu PS4. Sans déconner, moi je préfère ce début d'année à la période de fin d'année de l'année dernière. J'étais content de jouer à Assassin, etc. Mais tous ces jeux-là, on les attend, ils nous surprennent peu. Alors que là, au mois de mars, là, on a une succession de jeux incroyables qui sortent.
Et c'est marrant, c'est que des indés. Pas forcément que des indés, mais des jeux vendus moins chers. Parce que par exemple, moi, je joue à Resident Evil Révélation 2, qui n'est pas du tout indé. Mais plus j'avance dans les épisodes, plus j'apprécie en fait. Et c'est vraiment.
Carole
est à fond
avec
dessus.
L'épisode 3.
Et moi j'en suis toujours à la fin de l'épisode 2, mais je m'amuse de plus en plus.
Apparemment,
c'est
le 3 il est extraordinaire.
Voilà. Ouais, c'est un jeu qui fait 25€ si je m'abuse. Là en fait, au mois de mars, on peut jouer à des expériences excellentes sans se ruiner.
Il y a un bon plan aussi qui est bon à savoir sur le. Enfin, si vous avez la chance d'être PlayStation Plus, Oli Oli 2 est gratos.
Ouais, c'est mortel.
Sur Vita et sur. Non, juste sur Vita. Ou
c'est
sur PS4,
c'est que sur Vita.
Gratuit, c'est que sur Vita.
Ouais. Bah, il y a soldat
si vous avez une Vita, c'est gratos. Oui, donc du coup, j'ai même pas besoin de vous dire que ça vaut le coup puisque c'est gratos, mais c'est mortel.
C'est gratos si on est PlayStation Plus.
Oui,
mais
voilà.
Bon, a priori,
si vous avez la chance
d'être
PlayStation Plus,
si vous jouez en ligne,
c'est gratuit. Et de toute façon, s'il est payant, ça vaut le coup parce que c'est vachement bien. Voilà.
Ouais. Très bien.
C'est un jeu de skate pour les gens.
On en avait parlé la semaine dernière. Il y a aussi l'Odyssey Day, etc. Enfin, c'est vrai qu'on peut très bien jouer sans se ruiner.
Autre tout petit défaut, tout petit, parce que je me suis fait chier à trouver des défauts. J'en ai trouvé qu'un seul.
Ah, on reste encore dans
Ori. C'est la caméra est très reculée. Alors les gens ont fait souvent cette remarque en voyant les screenshots du jeu. C'est vrai que le personnage est tout petit. Ils ont fait le choix de reculer la caméra.
Il n'y a pas d'effet de zoom et de dézoom.
Non,
fait.
Ouais. Franchement c'est un bon choix parce que le jeu est extrêmement bien réglé et hyper agréable à jouer comme ça, et qu'on le trouve quand même magnifique et qu'on voit le personnage et que bon dans les cinématiques on le voit de plus près, etc. Après au niveau lisibilité, parfois comme il y a beaucoup d'effets lumineux et qu'il y a beaucoup d'ennemis et parfois des zones très difficiles, il y a peut-être quelques passages où on se dit ah j'aurais aimé avoir plus de lisibilité, d'être peut-être un peu plus près pour être moins paumé sur certaines séquences. À part ça, honnêtement, parce que là je citais la fin, j'ai pas été déçu par la fin. C'est juste que
j'attendais le dernier coup de massue. C'est bon, si la fin est à chier, on veut pas. Hein, c'est fini.
Non, jouez-y. Franchement, jouez-y, c'est extraordinaire, un super jeu.
Très bien. On a fini avec les trois thèmes, messieurs. On va passer immédiatement au hors-jeu. Et oui, parce que le hors-jeu, c'est aussi la vie. On va commencer avec toi, Romain.
Oui.
Qu'est-ce qui s'est passé que t'as vu et que t'as kiffé?
À part du catch.
Non, mais ça va être du catch à tous les coups.
Eh bien non, le catch ça attendra un peu.
Oui, ça attendra le début avril.
Ça attendra que je revienne de WrestleMania.
Tu iras voir notre avis Daniel Bryan. Ouais. Tu feras une photo avec lui ou pas?
Bah si je le croise, oui, mais le pauvre là, bon bref. Ce dont je parlais il y a quelques semaines, ça s'est empiré en fait.
Ah enfin, merde.
Et
soutien Daniel. Soutien.
Et donc j'ai été voir Big Hero 6. Enfin c'est les nouveaux héros en français et le nouveau film Disney. Et j'ai été très très agréablement surpris. C'est basé sur une licence Marvel à la base. Et
très, très peu connu d'ailleurs.
Et globalement, ils ont réussi le tour de force de donner un côté Marvel et un côté Disney en même temps. Et le mélange est super réussi. C'est très drôle, c'est très beau. La ville dans laquelle se déroule le film, c'est un mélange entre San Francisco et Tokyo. C'est magnifique. J'aime beaucoup les décors. Les personnages sont tous vraiment, vraiment très attachants. Je suis allé le voir comme ça. Je me suis dit, ça a l'air sympa. En plus, Disney, bon, j'ai tendance à leur faire confiance. Et je suis sorti du ciné vraiment très enthousiasmé. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais
non, malheureusement je suis resté sur la Reine des Neiges pour l'instant.
C'est vraiment quand tu seras libéré délivré de la Reine des Neiges, tu pourras peut-être voir
Le 2 arrivera l'année prochaine, donc je serai pas libéré délivré à bon moment.
Mais non, mais c'est clairement une nouvelle licence. Je pense
la fin fin ne laisse aucun doute sur sur l'éventualité,
c'est ça
suite,
et le personnage de Baymax il est ultra adorable. C'est vraiment génial. En plus, ils arrivent à faire un super héros à partir d'un personnage qui est en fait plus ou moins une infirmière robotique, quoi. Le seul but du personnage, c'est de te soigner quand ça va pas, etc. Et à partir de là, ils en font toute une intrigue et ils le transforment en super héros. Mais c'est vraiment chouette. Et en plus, ils ont fait un truc pas mal, c'est que dans les bandes annonces, ils avaient fait plein de petites vannes et petits trucs qui ne sont pas dans le film.
C'est ce que m'ont dit mes enfants.
Mais là, on se fait complètement avoir.
Ben non, mais pour le coup, non, parce qu'il y en a d'autres à la place.
Ah, mais oui, je déconne.
Mais ça, je trouve ça génial, parce que souvent, l'un des problèmes des bandes annonces, c'est que putain, ils te dévoilent la moitié du film.
Voilà. Alors que là, en l'occurrence, non. Et c'est vrai qu'en sortant du film,
c'est presque un peu. T'as presque l'impression que c'est un dérivé un peu des courts-métrages Pixar. C'est-à-dire que dans la bande annonce, t'as une histoire à part que tu retrouves avec le même esprit dans le film, mais pas avec la même histoire.
D'ailleurs, il y a un court-métrage avant la diffusion des nouveaux héros sur l'histoire d'un petit chien et de son maître, et c'est ultra adorable aussi. Et donc franchement,
c'est pas trop triste, ça va, parce que je sais que t'as un faible pour les
petits. J'ai un petit côté non c'est pas trop triste, ça va. Non c'est vraiment vraiment super mignon, et donc j'ai passé un bon moment en ce qui concerne aussi bien le court métrage que le film en lui-même. Je vous le recommande.
Disney en ce moment quand même,
ils
enchaînent
ils ont la Magic Touch en ce
Disney
moment.
Disney Pixar, parce que le prochain Pixar a l'air fou aussi.
Disney, Pixar, Marvel, j'avais envie de dire. plus LucasArts.
L'alliance des héros.
Là, ça va être un peu de
la Magic
folie.
Touch, là, ils sont un peu en forme.
Je vais me tourner maintenant vers Julo. Parce que Julo, cette semaine, est arrivé quelque chose.
Ah, t'as un son ?
Un miracle, j'ai envie de dire. Une espèce de scénario
miracle,
complètement fou.
Alors
le hors-ton hors-jeu, c'est du foot évidemment.
Ouais, vous savez, je suis un grand supporter du Paris Saint-Germain depuis toujours, et j'en parle jamais dans les hors-jeux, mais là, qu'est-ce qui s'est passé en hors-jeu d'incroyable dans ma vie cette semaine ?
Ouais.
C'est ce match que j'ai suivi à la télé. J'étais au Parc des Princes.
Est-ce qu'on peut faire un résumé clair de ce qui s'est passé exactement ? 30e minute.
Voilà, c'est ça. Un scénariste d'Hollywood imaginait un match, et je pense qu'il aurait imaginé celui-là. C'était complètement dingue. On est passé par tous les états. Donc en gros, il y a eu un partout au match aller à Paris, et donc il fallait faire au minimum. On gagnait si on gagnait 1-0, parce que c'était une victoire, un match nul.
À 0-0, Paris est éliminé. 1-1,
prolongation
jusqu'au tir au but, 3 victoires.
Et puis après,
au but à l'extérieur, comme l'année dernière, Chelsea l'avait fait.
Plus de buts à l'extérieur signifie un avantage. Donc avec 2 matchs nuls, si on avait mis plus de buts, c'était gagné. Et c'est ce qui s'est passé. Mais enfin bon, avant d'en arriver là, on est passé par toutes les phases. C'était incroyable. Il faut savoir qu'au match aller, Paris avait vraiment dominé le sujet et est reparti finalement avec un match nul 1-1 qui lui laissait que 30% de chances de passer.
Parlons
cette semaine.
32e minute, parce que c'était à l'écran là, pour
le 32e minute. Ah oui, il y a les images formidables. Le but, le tacle de Ibrahimovic qui peut valoir un rouge.
Non, faut arrêter les conneries.
Mais pas forcément, quoi, on va dire.
Non, mais il est en retard, mais jamais surtout... il ne tend la jambe pour dans l'intention de faire mal à quelqu'un.
Ouais.
L'autre il en rajoute
jambes,
des caisses.
Non, mais surtout qu'il retient son geste.
Pliées,
hein.
Quoi.
Mais oui, il a les jambes pliées.
Bah
l'autre,
parce
il
retient son geste. Il retient. Il part.
Ça prouve bien que c'était pas volontaire.
Oui,
enfin.
Mais alors le truc, ce qu'il faut savoir,
moi,
c'est que
rien en foot, mais
alors Chelsea est dirigé par un coach qui est probablement le plus génial du monde, et en même temps, t'as envie de le détester quand
c'est
José Mourinho,
bon vieux José,
qui est incroyable de talent sur le terrain, mais surtout en dehors du terrain, dans la guerre psychologique que peut représenter ce genre de confrontation. Et là, pendant 3 semaines, il a fait la pleureuse en disant, mais je comprends pas, Paris c'est censé être une grande équipe, ils sont pas censés, ils nous ont taclés de partout, puis les arbitres ils sifflent pas, on a un mec talentueux comme Hazard, il peut pas bouger parce qu'il se prend des tacles. En gros, Paris c'est des bouchers et puis nous on est des artistes. Si bien que voilà, à la 30e minute, lorsque ça s'est passé, et bien tout le monde s'est dit, et voilà, la Mourinho Stoch, il a réussi à faire expulser
30e minute.
Ce qui est extraordinaire, c'est que les 10 joueurs de champ de Chelsea viennent gueuler près de l'arbitre à ce moment-là.
Bah, je sais pas si t'as vu l'interview de Zlatan après le match.
Faut en sortir un deuxième.
Après le match, il a dit j'avais l'impression d'avoir 11 bébés autour de moi qui pleuraient.
Ouais, enfin 11 bébés auxquels il a cédé un caprice.
Expression qui a été reprise par la presse anglaise qui a traité l'équipe de Chelsea de babies. Enfin bref, c'était un match fou parce qu'à ce moment-là, on se retrouve à 10 contre 11 et on sait que ça va durer au minimum.
Il y avait déjà
encore,
un but à ce moment-là ou pas ?
Une heure. Non. Zéro but. Donc, juste après ça, il y a Cavani qui a une occasion de but, on la voit là.
Ouais. Et il déborde et hop, poteau.
C'est le poteau. Et là, c'était 1-0 et on était bien, quoi. On était bien, surtout qu'on les dominait et qu'ils refusaient un peu le jeu. Horreur, juste après cette action de Cavani. 80e minute, c'est-à-dire à la 10 minutes avant la fin du match, Chelsea fait une espèce de partie de billard aérienne devant la surface et claque son but. Et alors là, on se dit, mais je vous raconte pas comment on se décompose. On se dit, c'est foutu, quoi. Il reste 10 minutes. Mais on continue à y croire quand même. jusqu'au bout, on va pas encore se faire éliminer. C'est eux qui nous ont éliminés l'année dernière en quart de finale. Et du coup, extraordinaire coup de tête de David Luiz, ancien joueur de Chelsea, transféré. Mourinho avait déclaré que c'était pas une grande perte. Et c'est lui qui marque le but de l'égalisation. Et avec un partout, on se retrouve du coup avec la promesse d'une prolongation qui va être tendue. On est toujours à 10 contre 11. Et là, Thiago Silva qui fait une main dans la surface. Enfin, c'est complètement dingue. Lui qui a
été monstrueux.
Là, j'ai
vu les ralentis. On dirait qu'il joue au basket, le mec. Il saute les deux bras en l'air.
Non, je pense qu'il veut mettre la main par-dessus l'épaule du joueur. C'est comme on fait souvent pour les.
Leur foutre dans la gueule.
Pour les rabaisser, les empêcher de sauter assez haut. Le capitaine qui avait été monstrueux, il fait cette faute là et tu sens qu'après il veut se rattraper. Sur un premier corner, il rate sa tête et sur un deuxième corner, il la met au fond et là il y a 2-2 et on est qualifié.
C'est celui qui a provoqué
et il reste
le pénalty
4 minutes à jouer.
qui met la tête.
Il met deux têtes. Une première qui est arrêtée par le gardien et qui la repousse en corner et donc deuxième corner après.
Ah, c'est deux corners de suite
Et là, bim, il la remet une deuxième fois et il lobe le gardien qui fait 2 mètres. Et c'est l'explosion de jeu. Je vous raconte pas comment on l'a vécu. On était assez nombreux chez mon frangin. C'était formidable et je sais que tout le monde l'a vécu comme ça. Ça rentre direct dans le top 5 des matchs les plus marquants du Paris Saint-Germain. Avec le PSG Real, avec les PSG Barça, etc. Enfin,
et
voilà,
PSG Juve aussi, parce que faut se rappeler, les PSG Juve étaient géniaux.
Et puis il va peut-être en avoir un du coup.
Ah bah il y en aura peut-être pour essuyer le 6-1 de 95.
C'est l'époque où Paris était en forme, ça, hein, les années 90 là.
Ah oui, qu'ils se prenaient 6-1 par la Juve, ils étaient en forme.
93-98.
De Niso.
Moi, c'est un des matchs qui m'a le plus fait vibrer. C'était extraordinaire. Ils ont été héroïques. Et d'ailleurs, ce qui est formidable, c'est que sur le deuxième but, celui de Thiago Silva, il court vers la tribune opposée aux supporters, vers sa femme qui était un peu plus haut. Et quand il court, il a une expression entre les pleurs et la joie et qui a été reprise dans quasiment toutes les unes, hein, c'est l'équipe, c'est le Parisien, etc. Il a une tronche et on était tous dans cet état là à ce moment là mais lui il rattrape son erreur
et il donne
la victoire au club et tout. Alors qu'il est en...
parce que t'imagines,
on sait la coupe du monde qu'il a vécu, il a eu beaucoup de mal à s'en remettre, ça fait seulement 3-4 matchs qu'il est redevenu Thiago Silva. Et là quand il est en train de chialer et de hurler de joie en même temps, c'est magique.
T'imagines ça, le match s'arrête sur 2-1 à cause de sa main, t'imagines les titres le lendemain et les commentaires.
Mais il y avait une aura de grand match dès le début. Je sais pas si vous avez vu le match, mais en fait tu regardes les 10 premières minutes, il y a une intensité qui est juste complètement dingue. Tu savais que ça allait être un grand match dès le début. Il y a des trucs comme ça qui commencent et c'est ça qui nous a fait espérer, parce qu'on a toujours dû revenir au score. Il y avait toujours une lueur d'espoir, quoi. Il y avait quelque chose d'un grand rendez-vous à ce moment-là.
Bon, en tout cas.
Et c'est surtout le premier scalp de Paris en Ligue des Champions depuis.
Mais non, ils ont déjà eu Barcelone pendant les poules, je te dis.
Depuis la grande époque.
Bon.
Non, parce qu'ils n'ont pas éliminé Barcelone. Ils ont battu. Oui, mais là ils ont éliminé.
L'important c'est de les battre aussi.
Un grand d'Europe. Bon. Et là,
en tout cas, on souhaite beaucoup de courage à Paris pour la suite, que tu gardes ce sourire que tu as sur le visage.
Ah, ouais,
parce que d'habitude, t'es sinistre,
incroyable.
Donc comme ça, au moins là, t'as un peu la pêche. Ça change. On va passer à toi, Joe. Toi, tu as aussi un petit hors-jeu. On va l'écouter. On va écouter au moins une petite partie du hors-jeu. Alors, il y a beaucoup de basses, hein. Oh là là, il y a du son.
Attention, je vais baisser un peu le volume pour nous.
Mais non.
Ça s'appelle Minions, le nom de la chanson, et c'est le groupe Torch qui a sorti son album qui s'appelle Restarter.
Torch ou Torch.
Il faut savoir, quand même, rappelons hein, que tu officies sur WeFM, la radio rock,
tout à fait.
Et donc tu as accès à tout plein de musiques qu'on connaît pas du tout.
Mais alors ça, je passe pas sur WeFM.
Tu passes pas sur WeFM.
Pas en journée en tout cas.
C'est vrai.
C'est un petit peu trop violent pour les gens.
Parce que c'est pas du black metal.
C'est pas du black metal, mais ça reste quand même assez métallique. En revanche, effectivement, si vous connaissez pas ce groupe Torch et que vous n'êtes pas forcément des fans de métal, ça peut aussi fonctionner si vous aimez des trucs un peu galvanisants genre les Foo Fighters, parce que Torch fait partie de ces groupes qui ont effectivement un son extrêmement lourd, un peu pachydermique comme ça, mais qui soignent leur côté pop avec des chants un petit peu aériens comme ça, avec des refrains qu'on a envie de tous reprendre en cœur. Et c'est leur quatrième album si je me trompe pas. Qui est un groupe que je suis un peu depuis le début, et c'est vraiment un très très bon opus, un très bon cru. Donc si vous ne connaissez pas encore ce groupe Torch, l'album s'appelle Restarter et c'est vachement bien.
Ils sont de quelle origine? Ils sont américains?
Ce sont des américains, absolument. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont la magic touch du métal du pays de l'oncle Sam. Et ouais, c'est en fait ce que j'aime.
Attends, parce que je viens de voir là sur le truc que j'ai sous les yeux qu'il sort non seulement en vinyle et tout ça, mais aussi en cassette.
Il sort en cassette.
Alors ça, c'est une nouvelle mode. Ils sont dit le vinyle s'est dépassé.
C'est reparti là. Je sais pas si t'es au courant, mais pour le Record Store Day, Metallica sort une cassette de leur toute première démo avant d'avoir fait leur premier album.
C'est vrai.
Donc ils ressortent leur première démo en cassette avec des trucs écrits à la main au stylo dessus.
Et c'est quoi, c'est collector ou ils vont le diffuser
en
à
fait,
grande échelle?
Ça va sortir en mode collector pendant le Record Store Day. Alors si vous savez pas ce que c'est le Record Store Day, c'est une journée spéciale en avril qui est dédiée aux disquaires indépendants, durant lesquels des groupes ou des artistes internationaux sortent soit des morceaux qui n'ont jamais sorti, soit des éditions collector qui sont destinées uniquement aux disquaires indépendants et qui ne sont disponibles que ce jour-là ou les jours suivants s'il reste des stocks, mais généralement tout disparaît le jour même parce que c'est la journée des collectionneurs de vinyle. Et la cassette fait son grand retour et donc Metallica
c'est l'info de la semaine,
si je me trompe pas, peut-être que je dis une connerie, mais il me semble aussi que les Foo Fighters ressortent leur tout premier concert dans un garage en cassette également.
Et c'est depuis les Gardiens de la Galaxie aussi,
c'est ça, les Gardiens de la Galaxie
la mixtape de les Gardiens de la Galaxie,
Awesome Mixtape ou un truc comme ça, ils l'ont sorti en cassette.
Dernier Record Store Day, pas Record Store Day, Black Friday, donc là c'était en début d'année, la BO des Gardiens des Galaxies est sortie en cassette.
Et B, voilà. Dis donc,
vous pouvez racheter des vieux autoradios.
Bah voilà, c'est ça qui est encore. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de moyens de les lire.
Il y a encore des usines qui produisent des cassettes, quoi. Alors.
Oui, mais c'est
BSM va devenir les rois du monde.
T'imagines?
Oh la vache. Un truc de fou.
Non, mais tu sais, la prochaine étape, c'est qu'ils nous ressortent des films en VHS. Hein.
Déjà, ça marche. Il y a un site américain qui s'appelle Mondotiz qui est un très très bon site et qui joue sur cette nostalgie, qui vend des t-shirts, des affiches, des prints, comme on dit, et ils vendent, ils ressortent des bandes originales de films en vinyle, dont certaines n'ont jamais été rééditées, et des films en VHS, mais genre Drive, tu pouvais l'acheter en VHS. Ils font les choses bien parce qu'à chaque fois, ils font des nouvelles pochettes avec des artistes illustrateurs qui viennent vraiment faire des beaux trucs. Et la VHS est un marché de niche, entendons bien, mais un marché.
Putain, si on m'avait dit qu'en 2015, je dirais la VHS c'est cool. Là, franchement,
la VHS c'est toujours resté cool.
Moi, j'ai quelque chose d'une haine qui me reste de la VHS, c'est que ça s'usait tellement vite. Moi, je me rappellerai toujours j'avais tous les deux Funès que j'enregistrais à la télé, mais je les regardais 100 fois. Mais à la fin, c'était.
Moi, j'ai la haine, c'est parce que ça efface, ça éclipsait totalement un autre format qui s'appelait le V2000. C'était des cassettes qui étaient réversibles quand même à l'époque.
Et c'est surtout éclipsé le Betamax. Betamax qui était la meilleure.
Ouais, mais là, c'est un truc de bourgeois. De ton côté, quand toi, t'avais l'Arcadia et t'allais à la banque.
J'ai une pensée émue pour le HD DVD qui est.
Mais tu vois, c'est
comme si le HD DVD avait gagné contre le Blu-ray. Ce qui s'est passé avec la VHS.
Un petit peu.
C'est la vrai. VHS qui a gagné sur la Betamax, qui était infiniment meilleure en termes de qualité.
Ah, mais le V2000, c'était franchement
le HD-DVD n'était pas foncièrement plus mauvais que le Blu-ray. Il y a pas de.
Ah, il était beaucoup moins contenant. Il avait un gros problème, qu'il était beaucoup moins contenant.
Je suis même pas sûr. Les HD-DVD, ils avaient de la bonne capacité.
Non, ils pouvaient
pas. Ça s'est pas joué à grand chose.
Ils pouvaient pas augmenter la capacité comme ils ont fait avec les Blu-ray. Enfin bon.
Bon, quoi qu'il en soit, je crois qu'il y avait
une bonne vieille jaquette de VHS pour les puristes et les.
Ah bah comme ce qu'on avait eu comme.
Et les amateurs d'objets.
Comme kit presse pour Far Cry Blood Dragon.
Exactement. Blood Dragon.
Ouais, Blood Dragon.
J'ai toujours pas récupéré le vinyle. Si quelqu'un a le vinyle. Far Cry et Blood Dragon et qu'il le vend ou qu'il le donne, n'hésitez pas à me contacter chez Gameblog, je suis chaud. et je suis prêt à mettre le prix.
Voilà. On ira voir sur le Bon Coin juste après si tu veux. Il y avait autre chose dont tu voulais nous parler, c'est un magazine.
Ah oui, du alors du coup, je suis foot. Complètement con parce que j'avais dit tu je vais oublié. Le ramener et bah, il est dans une autre pièce. Donc,
c'est pas grave. Des mecs de SoFoot
c'est
et
Society,
tout ça.
Ouais. Exactement. Les mecs qui font SoFoot, SoFilm viennent de sortir un nouveau magazine qui s'appelle Society et qui, comme son nom l'indique, ne parle ni de foot, ni de musique, ni de cinéma comme SoFilm.
Mais c'est des génies en termes de titres à chaque fois. Tu rappelles leur truc de vélo qui s'appelle Pédale quand même. Va nommer un magazine comme ça. Pédale avec un point d'exclamation.
Avec
en plus.
Un point d'exclamation.
La Society, en plus, qui a une couve, mais qui est magnifique.
La charte graphique, la maquette, j'allais dire, voilà, ouais. du magazine est globalement très très cool. Et ce sont donc des articles. Ça se rapprocherait plus un petit peu d'un Vice magazine à la sauce SoFilm et SoFoot. Et c'est un magazine qui fait ce qui, je trouve, manque énormément aujourd'hui à la télé et qu'on ne retrouve que dans le papier. Et donc, longue vie au magazine papier. C'est que c'est un magazine qui te raconte des histoires, en fait. C'est-à-dire que au lieu de surfer bêtement sur des buzz et de partir dans l'anecdote, la recherche de l'anecdote à tout prix, c'est un magazine qui prend son temps pour te faire des articles de fond sur le fait qu'il y a des croisières de métalleux avec que des sortes de Hellfest sur des bateaux et qui t'explique de A à Z comment ça se déroule. Et c'est à la fois à mourir de rire, en même temps ils arrivent à glisser là-dedans plein d'informations intéressantes. Et c'est avec un autre magazine qui s'appelle Humanoid, ça fait partie de mes magazines préférés depuis cette rentrée 2015. Il se passe vraiment quelque chose
c'est
de cool
bimensuel,
dans la...
c'est ça.
C'est un bimensuel.
Ouais. Et ils ont le temps donc de faire leurs articles.
Ouais. Voilà. Mais il se passe des trucs cool dans la presse papier, donc allez en librairie,
en tout cas,
acheter
ont,
des magazines.
Je sais pas combien ils ont casé de sujets sur la couve, mais c'est l'un des trucs qui m'a marqué. Ah, c'est elle a une super gueule.
Dans le mag, hein,
elle est blindée. De
c'est
partout.
Un vrai patchwork très très joli.
C'est vraiment cool.
Et ils ont et en plus ils ont pris la parce que c'est un ça a été développé grâce à tous les pré-abonnés au magazine Society, et donc ils ont fait une double page gigantesque. Donc les deux premières pages du magazine, c'est un immense merci écrit avec tous les noms de toutes les personnes qui se sont préabonnées. Et franchement, tu te dis bon, ok, c'est normal, il remercie tout le monde, c'est génial. Mais ça a vraiment de la gueule, quoi. C'est assez impressionnant.
Bon,
donc bravo, chapeau, Society, c'est cool et c'est pas cher.
Dans vos librairies.
J'écris pas dedans, hein, je dis pas ça parce que j'ai des parts. Hein, c'est vraiment bien.
Petit détour, je me tourne encore une fois vers toi, Julo, parce que...
Oui, pourquoi ?
C'est l'heure du point concours, mon petit
Julo !
Ah,
eh
concours.
Oui ! Eh bien, grâce à Joe Hume et sa formidable chronique,
quoi ?
Parce qu'il faut le rappeler...
Avant Joe Hume, il faut qu'on parle d'un autre concours qui se finit dimanche, mon petit Julo.
On parle
d'abord du premier, d'accord.
Ouais, alors, on parle d'abord de Hacker's Game.
Alors, Hacker's Game, c'est un film qui sort en dématérialisé et avec qui nous nous sommes associés et à cette occasion. Donc, un concours, là, c'est celui-ci... est réservé à nos membres premium. Il s'agit de gagner 20 places pour l'avant-première du film qui aura lieu au Rex. Il y aura un deuxième concours, là je vous tease un petit peu par la suite, qui celui-là sera ouvert à tous avec un lot formidable à gagner. Voilà.
Ça commence par
ce film aussi.
Ça commence par B et ça va faire plaisir à du monde. Si
ah non, rien à voir avec le film donc.
Ouais. Non, rien à voir avec le film, mais c'est ça, hein, ça commence par un B. Ça concerne... Ah, c'est pas ça, ça concerne pas ce jeu-là?
Non,
je croyais.
Ah oui, alors on peut teaser aussi un autre gros concours qui arrive sur un jeu très attendu.
Ouais, effectivement.
Voilà,
qui débarque très bientôt.
Voilà.
Ouais, voilà.
Ouais, il paraît.
Tu pourras participer. Mais donc,
si vous voulez être premium et pouvoir participer à des concours, voilà, y en a un qui vous permettra peut-être de l'être.
Exactement, parce que toutes les semaines, grâce à Joe et sa rubrique Joe Vidéo, qu'il faut
notre
absolument
notre nouveau meilleur pote. Voilà. N'oubliez jamais.
Ou pas.
À découvrir absolument rapidement. Il y a deux épisodes chaque semaine. C'est une petite chronique sur un jeu différent à chaque fois.
Ouais. Pas forcément dans l'actu d'ailleurs. Ça peut être des jeux actu, ça peut être des trucs sur lesquels je reviens. Par exemple, il n'y a pas longtemps, c'était Binding of Isaac qui est sorti il y a un petit moment, mais sur lequel j'avais envie de revenir. Donc voilà.
Voilà, tu as fait aussi même, comment il s'appelle, Soldat Inconnu.
Ouais,
et puis tu es quand même revenu sur des trucs plus actu, celui de The Order est absolument à voir parce qu'on était, on était pliés en deux à la rédac.
parce que tu as un petit monteur aussi vidéo qui s'occupe d'habiller ça.
Exactement. Ah oui, il y a un petit monteur vidéo chez WFM qui s'appelle Benjamin. Qui fait du bon boulot, bravo Benji, et qui effectivement vous pimpe des petites vidéos, puisqu'à la base c'est des chroniques qui sont diffusées sur WeFM, donc uniquement en audio, c'était pas destiné à la base à être des vidéos.
Ouais, là il y a un vrai
et finalement on s'est dit quitte à faire des vidéos, autant essayer d'apporter une petite touche intéressante et un plus à ces chroniques, donc voilà, elles sont dispo désormais en vidéo sur Gameblog.
The Order avec l'Assemblée Nationale, Christiane Taubira et tout ça, vous comprendrez
quand vous
en le regardant.
Truc,
et en tout cas voilà, il y a une petite question chaque semaine dans une page concours, un concours permanent qui vous permet donc de gagner des abonnements premium de 1 an
chaque semaine avec une petite question
sur la chronique.
Voilà, sur la sur une des deux dernières chroniques.
Faut suivre en fait. Hein. Désolé, si vous avez envie de devenir premium et que vous trouvez que la
chronique
est à chier,
son nouveau meilleur pote.
Faut quand même regarder jusqu'au bout.
Mais en même temps, vous allez kiffer. Donc
tu peux nous teaser les prochains jeux vidéo.
Il y a de fortes chances pour que Hotline Miami 2 débarque avec nous, parce que quand, enfin, ce jeu, tu te dis, si vous connaissez les chroniques, c'est pas possible que j'en parle pas. Évidemment, il va y avoir Bloodborne, mais ça prendra peut-être du retard parce que je me fais fort de le terminer avant d'en parler. Non, il y a Battlefield qui débarque. Je pense que vu que généralement j'aime pas les Battlefield, je vais peut-être enfin me pencher sur l'épisode qui va peut-être me faire changer d'avis. Et puis je vous parlais de Holy Holy tout à l'heure. Je suis pas foutu de faire plus de 2 mètres en skateboard et pourtant je suis fort à ce jeu, donc peut-être que je vais en parler également.
Très bien, en tout cas, deux beaux concours. Mais maintenant, messieurs, on va arrêter de rigoler. Parce que vous le savez, pour finir un podcast, ça se fait forcément avec un petit quiz.
Vous savez que
j'ai un peu baissé le niveau des quiz puisque
c'est que t'as suivi la
face à la nullité des différents candidats.
J'ai complètement oublié cette phase.
Il a fallu que je baisse un peu le niveau. Cette semaine, après avoir fait un quiz spécial anniversaire de la PS2, eh bien j'ai
essayé. Qui a gagné la semaine dernière?
Eh bien, c'est Julo.
C'est WAM.
C'est Julo. Pour eh bien cette semaine, ce sera un quiz spécial Chrono Trigger, parce qu'il a fêté ses 20 ans cette semaine.
Attendez.
Parce que je vous ai dit que c'était des questions faciles.
Parce que t'aimes pas Zelda, mais en plus t'aimes pas Chrono Trigger.
Non, c'est pas que j'aime pas, c'est que j'ai jamais joué.
Ah, mais oh t'inquiète, c'est du pipeau. Vraiment, là, pour les 20 ans.
Moi je suis un noob
de Chrono Trigger. T'inquiète. C'est vraiment des questions super faciles, vous allez voir. Donc tenez-vous près de vos micros, n'oubliez pas d'abord le pseudo, ensuite la réponse. Sinon, je ne valide pas.
Je pense que je connais la réponse à une question. Bah, que je pense tu vas poser.
Peut-être.
Faut juste que je réagisse vite.
Alors, question numéro 1. Pouvez-vous me citer le caractère designer
Romain.
Akira Toriyama.
C'est une bonne réponse, mon petit Romain.
Clono.
Un point.
Putain,
Akira Toriyama.
J'ai ma réponse, je peux y aller.
Est-ce que vous pouvez me donner, question numéro 2, le nom du concepteur principal du jeu?
C'est
n'oubliez pas le pseudo.
C'est le moustachu. Jeu vidéo.
Oui.
C'est le Sakaguchi.
Bonne réponse, c'est Hironobu Sakaguchi, effectivement.
Également développeur des Dragon Quest.
Est-ce que vous pouvez me dire, parce qu'il y a un autre concepteur principal pour ce jeu? Il s'agit de Yuji Horii. De quelle série?
Julo. Dragon Quest.
Wow.
Mais j'ai dit juste
un petit point pour Julo, c'est effectivement
Sakaguchi, c'est Horii.
De quelle série?
Final Fantasy. Mais j'ai rien dit. Je savais qu'il y aurait une question sur
de quelle série de RPG. Alors signé Enix, est-il le créateur? Effectivement, c'est Dragon Quest. Bravo. Ouais. Question numéro 4. Il y a égalité. C'est rare. Question numéro 4. Pouvez-vous me citer un des deux compositeurs du jeu? Ah là, par contre, il y a une espèce de vent qui vient de passer.
J'en sais foutrement rien.
Oh, les compositeurs, les mecs.
Romain.
Oui.
Alors, je vous prie de m'excuser si c'est pas bon, mais là, j'essaye. Uematsu.
Eh oui, Romain, bravo.
Ah, Uematsu, il a fait.
Mais bien sûr, Nobuo Uematsu, même si le principal c'était Yasunori Mitsuda. Question numéro 5, attention, est-ce que Romain va remporter ce quiz sur un jeu qu'il n'a pas fait et qu'il n'aime pas et
Non, c'est pas que j'aime pas.
Si tu le détestes, tu me l'as dit juste avant. Je plaisante, ça va. En quelle année est sortie la suite de Chrono Trigger, Chrono Cross?
1996? Joe Video, 1996?
1994? Non, mais
t'as
pas vraiment
la réponse. Julo. 1997?
Romain?
Merde!
Ouais.
1996?
Et non, désolé messieurs, 98. C'était 1999. Mais c'est pas grave parce que là, Romain vient de remporter le quiz Chrono Cross. C'est une arnaque totale.
C'est comme si Chelsea avait gagné.
Non, parce que tu ne l'as pas fait.
Oui, mais Toriyama, je savais.
Tu sais, c'est l'équipe
arnaque. Et
Uematsu, arnaque.
C'est de la déduction, quoi.
Ouais, bah oui, mais bonne déduction. Bravo, Romain, pour cette victoire au quiz. J'espère que Julo tient toujours les comptes.
Je trouve que cette victoire-là est plus
Je rattrape le retard.
Cette victoire-là est plus méritée que celle contre Carole il y a deux semaines.
Ah, bah non, c'était mérité. Elle avait qu'à suivre les règles un petit
peu.
C'est
vrai que t'avais gagné déjà il y a deux semaines.
Ouais, effectivement. En tout cas, merci à vous tous. Merci, Romain. Merci, Julo.
Merci
Joe d'avoir participé à ce podcast. Une fois de plus, merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas les commentaires pour faire part de vos remarques concernant ce podcast. Et si vous avez des questions aussi, n'oubliez pas hashtag GameBlogPodcast. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment. D'ici là, portez-vous bien et surtout, jouez bien. Ciao.
Salut, ciao.